Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, très bon réveil à tous, soyez les bienvenus dans Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h, on vous accompagne en ce mercredi 28 janvier 2026. L'immigration a atteint un niveau record en France, mais pas l'immigration de travail. Plus de titres de séjour, oui, plus d'expulsions aussi, mais moins d'arrivées pour motifs économique. Ce matin, on va s'intéresser à l'angle économique, justement. Le marché de l'emploi en France attire moins d'étrangers et c'est un problème dans certains secteurs en tension. Toutes les explications à 7h40 avec un économiste de l'OCDE. Et puis, j'attends vos témoignages. Est-ce que vous constatez cette pénurie de main-d'œuvre autour de vous? Restauration, bâtiment, aide à la personne. J'attends vos témoignages au 3216 et sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. J'interrogerai aussi mon invité à 8h30 sur cette question de l'immigration. C'est Éric Ciotti. Éric Ciotti, qui est candidat à la mairie de Nice et qui est l'invité du face-à-face sur RMC BFM TV à 8h30. Et puis tiens, à 7h50, je voudrais vous le dire, ne manquez pas ce matin notre voix de droite, Louis Sarkozy, parce qu'il va réagir aux propos de François Ruffin. Vous l'avez peut-être entendu, François Ruffin est candidat à la présidentielle, mais surtout il dit « je veux être le premier président au SMIC ». Sauf que notre chroniqueur, il pense exactement l'inverse, il pense même qu'il faut mieux payer les politiques. Ça vous fait réagir, n'hésitez pas. Là aussi, je vous attends au standard RMC. Dans un instant, la météo... Le journal de 7h, du côté de la météo Géraldine, il y a pluie et neige dans l'est et quand même quelques éclaircies dans l'ouest.
Exactement, enfin. Oui, c'est une petite accalmie mais très temporaire sur l'ouest. On a toujours la Bretagne qui est en vigilance orange pour les crues, à l'opposé la vigilance avalanche sur les Alpes du Sud, parce qu'effectivement c'est dans l'est qu'on va avoir ce temps très agité aujourd'hui, et du massif central jusqu'aux frontières de l'est, de la pluie, de la neige à basse altitude. On attend jusqu'à 1 mètre de neige en haute montagne. Dans l'ouest, des éclaircies, quelques grisailles aussi. Les températures souvent 2 à 5 degrés ce matin. C'est plus doux près de la Méditerranée. Cet après-midi, on aura 7 à Lille, 8 à Paris, Lyon, 11 à Bordeaux, 12 à Marseille ou à Nice.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Bon réveil à tous, il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'immense soulagement de Sandrine Josso après la condamnation de Joël Guerriot à 18 mois de prison ferme, reconnu coupable d'avoir intentionnellement drogué la députée en vue de la violer, l'ancien sénateur va faire appel. Poignardé, brûlé, déshabillé, lacéré, le calvaire d'une jeune adolescente de 15 ans, séquestrée et torturée près de Lyon par 4 mineurs en garde à vue. Ils vont être présentés à un juge aujourd'hui. Et duel à tous les étages, ce soir en Ligue des Champions. Paris vise une place en 8e de finale. Marseille et Monaco jouent leur survie dans la compétition.
Sandrine Josso, soulagée.
Réaction de la députée après la condamnation tard hier soir pour soumission chimique de Joël Guerriot à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme. Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC, vous avez suivi ce procès pour RMC. L'ancien sénateur est donc reconnu coupable d'avoir drogué sa collègue à des fins sexuelles.
Oui, dans leur décision particulièrement argumentée, les trois magistrats estiment que Joël Guerriot avait bien l'intention de violer ou d'agresser sexuellement Sandrine Josso en lui donnant volontairement et à son insu une forte dose de MDMA. Des faits particulièrement graves, insistent les juges, surtout de la part d'un sénateur, d'où cette peine de prison ferme. Alors, à la sortie de l'audience, la députée Sandrine Josso ne cachait pas son émotion.
Je suis soulagée ce soir. Je vous avoue, Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est un immense soulagement pour moi-même ce soir et puis aussi pour la cause.
La cause, c'est la lutte contre la soumission chimique dans laquelle s'est engagée la députée. Pas un mot de Joël Guerriot après l'audience, mais je peux vous dire qu'il a été abasourdi par sa condamnation. Quand il s'est retourné vers ses avocats, il leur a dit « j'ai rien compris ». Et puis il a fait savoir qu'il faisait appel, ce qui veut dire qu'il n'ira pas en prison dans l'immédiat, pas avant ce futur second procès.
Violence d'une cruauté infinie à Oullins.
Où quatre mineurs vont être déférés devant le parquet aujourd'hui, soupçonnés d'avoir fait vivre un véritable calvaire à une jeune adolescente de 15 ans. Elle a vécu l'enfer, séquestrée par son ex-petit copain et trois adolescentes, tous mineurs âgés de 14 à 17 ans. À Oullins, près de Lyon, sur place, en direct ce matin, Vincent Chevalier. C'est dans cette commune, au sud de Lyon, que la jeune fille a été retrouvée errante lundi à l'aube, son corps lacéré, poignardé, après de longues heures de torture, Vincent.
Oui, selon les premiers éléments, la jeune fille suit son ex-petit copain depuis son foyer à Annecy jusque dans cet appartement de la banlieue lyonnaise. Et là, le piège se referme sur elle. À l'intérieur, trois autres filles mineures de 14 à 17 ans, dont la nouvelle petite amie du garçon, qui l'emmène ensuite dans le sous-sol de l'immeuble. Déshabillée, la victime raconte aux policiers des sévices et actes de torture, un couteau planté dans la cuisse, des lacérations dans le dos, de graves brûlures provoquées par le contenu d'un extincteur, des actes d'une très grande cruauté en partie filmés dans des conditions pour l'instant inexpliquées. La jeune fille parvient à s'échapper lundi matin avant d'être prise en charge par des passants, puis par les pompiers. Dans la même journée, lundi, cinq personnes, dont les quatre tortionnaires présumés, sont interpellées. Des faits d'autant plus surprenants que les cinq individus semblent inconnus des services de police.
Vincent Chevalier en direct de Oulin ce matin pour RMC.
Et puis c'est l'information de la nuit, l'incendie d'un hôtel à Courchevel en Savoie hier soir.
83 personnes ont été évacuées, relogées, aucune victime n'est à déplorer à cette heure. On ne connaît pas l'origine du feu qui s'est déclenché au niveau de la toiture de l'établissement. Établissement 5 étoiles, des flammes, Romain Houg, qui gagnent du terrain ce matin sur d'autres bâtiments de la station de ski.
Oui, l'incendie qui s'est déclaré un peu avant 19h sur la station de Courchevel, dont l'origine pour l'heure n'est pas connue et qui s'est propagé à une résidence mitoyenne. Les 83 occupants de l'hôtel ont pu être rapidement évacués et relogés, assure la préfecture. Selon la direction de l'établissement, personne ne manque à l'appel. Il n'y aurait donc ni mort ni blessé, mais rien n'est complètement certain tant que les pompiers n'ont pas pu procéder à une vérification complète du bâtiment, ce qui n'était toujours pas le cas il y a quelques heures. Tant l'incendie est complexe à maîtriser pour les sapeurs-pompiers. Le feu est limité à la toiture de l'hôtel, mais sa structure est complexe, très proche d'autres bâtiments. La neige qui la recouvre empêche de localiser précisément les exutoires de fumée, ces espèces de fenêtres qui permettent notamment d'évacuer la chaleur et d'éviter un embrasement général. À cet endroit de la station, les bâtiments s'entremêlent, ce qui rend très difficile le positionnement des engins et surtout le risque de propagation à d'autres établissements encore est très important. Intervention donc particulièrement complexe pour les pompiers déployés sur place.
Romain Houg ce matin pour RMC. L'épidémie de grippe se poursuit, circulation particulièrement active en ce moment chez les enfants. Les autorités sanitaires redoutent une recrudescence chez les adultes dans les semaines à venir. C'est pourquoi le gouvernement annonce la prolongation de la campagne de vaccination jusqu'à la fin du mois de février. Il est 7h06, vous écoutez RMC. Il se dit horrifié. Le basketteur français des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, réagit à la mort de deux citoyens américains tués par la police de l'immigration à Minneapolis. Les langues se délient aux États-Unis. L'un des proches conseiller Donald Trump évoque de possibles manquements au protocole. Le président américain dément, lui, un retrait des troupes de l'ICE à Minneapolis. Il évoque un petit changement pour désamorcer les tensions.
Une police de l'immigration qui crée la polémique aussi en Italie.
Plusieurs de ses membres vont être mobilisés pour les Jeux d'hiver la semaine prochaine à Milan. Des membres de l'ICE dépêchés sur place, Nicolas Pelletier, afin de protéger l'avenue de J.D. Vance, le vice-président américain.
Oui, ICE n'effectuera pas de contrôle de l'immigration lors de sa présence en Italie début février. Ce détachement d'agents américains devra, sous le contrôle des autorités italiennes, s'assurer de la sécurité des lieux visités, notamment par les représentants américains. En clair, faire du renseignement. Aucune précision n'est apportée pour savoir si les agents de ICE seront au contact des athlètes américains pendant les épreuves. Mais en Italie, cette décision ne passe pas. Le maire de Milan a déjà fait savoir que les agents de la police de l'immigration américaine ne sont pas les bienvenus dans sa ville. Des forces étrangères pour une compétition internationale. Ce n'est pas une nouveauté. Les services secrets israéliens étaient par exemple présents aux Jeux de Paris en 2024. Contacté, le Comité international olympique fait savoir que la sécurité des JO relève de la responsabilité des autorités du pays hôte.
Et sur le volet sportif, performance XXL hier soir pour le jeune Alban Elesi Canaferina, troisième du géant de Schladming en Autriche. Le jeune skieur français de 22 ans est en bonne position ce matin pour obtenir le dernier ticket qualificatif pour les Jeux olympiques d'hiver.
7h07 et grande soirée Ligue des Champions ce soir sur RMC.
Huitième et dernière journée multiplex de 20h à minuit, 18 matchs au programme et trois clubs français qui jouent leur avenir dans la compétition. Le PSG reçoit Newcastle pour une place dans le top 8 qualificatif pour les huitièmes de finale. Marseille et Monaco visent une place dans les 24 qualificatifs pour les barrages. Monaco reçoit la Juve. L'OM se déplace à Bruges. Florent Germain avec la ferme ambition pour les Marseillais de poursuivre l'aventure européenne.
Oui, l'OM n'a pas disputé un match à élimination directe en Ligue des Champions depuis 2012. La perspective d'accrocher une place en barrage n'est donc pas prise à la légère par Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM parle même d'un rendez-vous historique ce soir à Bruges.
Personnellement, non ci sono mai stato.
On veut marquer l'histoire de l'OM, car cela fait de longues années que le club n'est pas arrivé à ce stade de la Ligue des Champions. Et je le dis car j'ai confiance en mon équipe. On peut battre n'importe qui, et si on devait passer dans la phase à élimination directe avec des gros matchs aller-retour, je peux vous garantir que ce ne sera pas perdu d'avance.
Accrocher le top 24 européen serait le signe d'une vraie progression pour l'OM. Le défenseur Facundo Medina veut lui prolonger l'aventure Ligue des Champions pour les supporters.
C'est un rendez-vous historique car on a cette soif de compétition. On veut gagner, gagner, toujours gagner. C'est ce que mérite ce club et surtout les supporters qui nous représentent. Ça nous motive beaucoup à penser à eux pour faire grandir le club et écrire une belle page de l'histoire de l'OM.
1500 fans olympiens seront à Bruges ce soir. En cas de victoire, Marseille sera qualifié. Un nul ou une défaite obligerait l'OM en revanche à croiser les doigts pour que les autres résultats lui soient favorables.
Et puis victoire impérative ce soir pour les Bleus du Hand opposés à l'Allemagne. Dernier match du tour principal décisif pour accéder aux demi-finales de l'Euro.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 au 32-16. Vous êtes nombreux à réagir à cette information sur franchement le coût de la voiture. La voiture depuis 10 ans, le coût moyen de détention d'une voiture a doublé entre 400 et 800 euros par mois. Bonjour Jérôme.
Oui,
vous
bonjour,
nous appelez d'Indre-et-Loire, vous êtes agriculteur. Jérôme, dites-nous, vous vous en sortez comment, vous, avec votre voiture ?
Ben, moi, je vais apporter une contradiction à tout ce que j'entends.
Ah.
C'est que pour moi, la LOA, c'est juste une démarche commerciale qui va permettre à des gens, à l'industrie automobile, de vendre des voitures qui sont hors de prix.
Vous parlez des locations avec option d'achat, hein, qui ça, sont encouragées aujourd'hui, mais vous dites non.
Non, moi je dis non, en fait, ça c'est juste pour nous faire acheter des voitures qui sont hors de prix à des gens qui n'ont pas les moyens, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des situations de surendettement, parce que ça correspond pas à une ligne de crédit dans leur budget. Enfin, donc, je vais vous parler, moi mon cas, ouais. En fait, si vous voulez, j'ai des voitures, mais alors moi, si vous voulez, dès que je sors de chez moi, je monte dans une voiture. J'ai de la voiture, elle est omniprésente tous les jours.
Vous avez besoin pour vous déplacer, vous êtes en milieu rural.
C'est ça. Moi, j'ai des voitures qui ont plus de 250 km.
Ok.
250 000 km, pardon.
Oui, j'ai compris.
Ça va faire plus de 10 ans qu'elles sont payées.
Non. Ouais.
Ça fait plus de 10 ans qu'elles sont payées. Aujourd'hui, je n'ai que des coûts d'entretien.
Ouais.
Et à partir du moment où on s'en occupe bien de sa voiture, et bien, en fait, on peut le faire durer longtemps. Et là, on vit sur son capital.
Vous bricolez ou vous avez un peu une solidarité autour de vous quand il manque une pièce, un truc?
J'ai juste un petit garage local qui applique des prix tout à fait corrects, qui change juste ce qu'il y a besoin de changer, et voilà, et qui nous perçoit comme un bon père de famille, et en fait les choses se passent bien.
Ouais, c'est ça. En fait, vous avez choisi une option tranquille, quoi. Voilà, vous voulez pas forcément une voiture qui a tous les derniers cris avec toutes les options, mais qui vous permet de tenir la route, c'est le cas de le dire, et de pas vous coûter trop cher. Merci beaucoup Jérôme pour votre témoignage. Jérôme, agriculteur, donc en Indre-et-Loire, vous êtes à Nouhans-les-Fontaines. Il est 7h11 et cette question qui sera à la une pour les députés aujourd'hui. Elle fait quasi consensus à l'Assemblée. La suppression du devoir conjugal. Le devoir conjugal, c'est cette idée qu'on doive accepter d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint au sein du mariage. Refuser ne sera plus un motif de divorce. Évidemment, vous vous en réjouissez. Karine Denoy-Monteux, bonjour. Vous êtes avocate, vous êtes vice-bâtonnière du barreau de Paris. Sauf que, attention, vous alertez parce que le texte tel qu'il est rédigé aujourd'hui ne remplit pas vraiment l'objectif fixé. On pourrait jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'attention à ne pas supprimer la notion même d'engagement mutuel. Vous nous le dites dans un instant. Je vous attends, vous, au 32-16. Appelez-nous pour nous dire si cette question justement du devoir conjugal existe encore. Est-ce que vous vous sentez libre au sein de votre couple? Vous connaissez le chemin, c'est le 32-16. À tout de suite, 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Les époux se doivent respect, fidélité, secours, assistance et consentement. C'est ce qui pourrait bientôt être lu le jour du mariage à la mairie. Vous aurez bien remarqué évidemment que le « et consentement » est évidemment nouveau. Les députés débattent aujourd'hui pour supprimer le devoir conjugal du Code civil. Le devoir conjugal, c'est cette idée que l'on se doit d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Bonjour Karine Denoy-Monteux, vous êtes avocate, vous êtes vice-bâtonnière du barreau de Paris. Votre parti pris ce matin, c'est que, oui, vouloir supprimer le devoir conjugal à l'ancienne. Évidemment, pourquoi pas. Mais attention à la rédaction de la loi. Pourquoi vous êtes inquiète ?
C'est bien cette notion de mariage à l'ancienne que vous évoquez dont il est question, puisque les textes sur le mariage c'est 1804, aujourd'hui en 2026 on se marie plus comme en 1804. Donc évidemment il y a un sujet sur la rédaction des textes. Moi je suis avocate depuis 25 ans en droit de la famille, j'accompagne des parcours de vie très différents, je défends la liberté de choix de parcours. Avec des gens qui ont des familles recomposées, des gens qui font le choix de pas avoir d'enfants, des gens qui sont en éloignement géographique pour des raisons professionnelles. Il y a des sujets de maladie, de mariage à tout âge. Donc on a vraiment cette notion de devoir conjugal qui était liée en fait.
Déjà désuète pour vous ?
En fait, elle est déjà désuète. Elle était liée à cette notion de cohabitation qu'on a dans les textes. En réalité, cette notion de devoir conjugal, elle n'existait pas dans les textes, mais elle était en fait déduite de cette notion de cohabitation. Et en réalité, aujourd'hui, d'abord, elle est désuète, et puis en plus, ça pose une difficulté, effectivement, au regard de cette notion de consentement qu'on a besoin d'établir.
Au fond, ce qui vous inquiète, j'essaie
de le mariage résumer. N'est pas égal à un consentement définitif à avoir des relations conjugales. Voilà.
Voilà.
Mariage et relations sexuelles ne sont pas un accord pour l'un automatiquement pour l'autre.
Mais alors, est-ce qu'il faut ce texte?
Bien sûr qu'il faut ce texte. Il faut ce texte, mais pas tel qu'il est proposé. C'est-à-dire que sortir les relations sexuelles d'un lien automatique au mariage, c'est une évidence. Maintenant, le texte tel qu'il est proposé, c'est introduire une notion de consentement sur tout ce qui est socle fondateur du mariage, c'est-à-dire assistance, secours, fidélité, respect.
C'est-à-dire votre crainte, et je vais essayer de le résumer aussi pour ceux qui nous écoutent. Lorsque l'on se marie, le jour du mariage, on prononce ce fameux oui. Mmh. C'est un oui qui doit être dit en toute liberté, qui doit être dit clairement, qui doit même être entendu par tous.
Exactement.
Et ça, c'est d'ailleurs le cas à la fois dans les mariages civils, mais même dans le mariage religieux. Le fait que la porte d'une église, par exemple, doive être ouverte, si elle est fermée, ça peut même être un motif d'annulation. Donc tout le monde doit entendre ce oui.
Exactement.
Ce oui, c'est un consentement initial, en quelque sorte. Si on introduit une notion de consentement à toutes les étapes ensuite de la vie, est-ce que ça veut dire que, par exemple, il faudrait désormais justifier d'un consentement lorsque l'un des deux est malade et que l'autre dit « bah non, moi j'ai pas spécialement envie de t'aider », est-ce que ça pourrait introduire ce vice-là ?
Exactement. En fait, c'est source de contentieux et d'incertitudes juridiques dès lors que on ajoute cette notion de consentement à ce contrat qui est un contrat de solidarité et de respect. Rajouter la notion de consentement, ça veut dire que, en fait, sur chaque notion, sur chaque élément qui est le socle fondateur du mariage, on va se dire, bah oui, mais est-ce que finalement l'autre est d'accord ? Est-ce que t'es d'accord pour m'aider ? Est-ce que t'es d'accord pour me respecter ? Est-ce que t'es d'accord pour être solidaire avec moi ? Est-ce que t'es d'accord, en fait, pour ce contrat de vivre à deux ? S'il n'y a pas d'accord sur ce contrat de vivre à deux, alors ça n'a aucun sens.
Au moment où l'on lit le code civil, il y a aussi la notion de famille ou d'enfant. Est-ce que, par exemple, vous évoquiez le fait que désormais les couples sont très divers, que les mariages sont beaucoup plus divers, qu'on peut se marier et ne pas du tout avoir envie d'avoir des enfants? C'est évidemment encore plus le cas aujourd'hui. On en parle beaucoup avec la question de la natalité. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, il faudrait réintroduire cette notion qu'on puisse presque reprocher à l'autre, ben non, mais j'ai pas dit oui pour le fait de pas avoir d'enfants? Est-ce que, à l'inverse, ça pourrait redevenir un blocage ?
Non, alors cette notion d'avoir des enfants ou pas des enfants, ça c'est pas le contrat de solidarité du mariage, c'est vraiment la liberté de chacun.
C'est inscrit dans le code civil que l'on lit à la mairie.
Alors le fait d'avoir des enfants, non, c'est le respect.
La notion d'enfant en tout cas est exprimée.
À l'obligation d'avoir des enfants, non, n'est pas liée à.
Ah non, mais pas du tout l'obligation. Non, on est bien d'accord.
On n'est pas obligé d'avoir des enfants.
Mais la question des enfants est mentionnée. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces questions-là du consentement, ce qui vous inquiète, c'est que ça démonétise en quelque sorte le oui initial.
Oui, alors mais pas par rapport aux enfants, plutôt par rapport aux notions de, encore une fois, de solidarité et d'entraide. La notion des enfants, elle est plutôt traitée dans le code sur les comment on règle les difficultés quand on demande des séparations. Mais non, c'est vraiment la solidarité.
Est-ce qu'il faut retirer la notion même de fidélité, par exemple, puisque normalement,
non, bien sûr
il y a
que non.
Cette question-là. Je le redis, non. Les époux se doivent respect, fidélité, secours, assistance et consentement.
Mais la fidélité, ça va bien au-delà des relations conjugales. En fait, c'est une philosophie de vivre à deux aussi, la fidélité. Donc non, donc surtout pas.
Donc surtout pas, parce que certains députés eux-mêmes disent qu'il faut aller plus loin et supprimer cette notion même de fidélité. Au fond, vous le rédigeriez comment, vous, de ce texte ?
Au fond, moi, je ne changerai absolument pas cet article fondateur sur le mariage et la notion d'absence de consentement automatique aux relations sexuelles. Il est lié exclusivement à la cohabitation et à rien d'autre.
Donc, vous ne feriez pas ce texte? Vous estimez qu'il y a déjà suffisamment?
Pas tel qu'il est proposé.
Il y a suffisamment aujourd'hui aussi. Est-ce que en vrai, c'est ma dernière question. Est-ce que en vrai, ces divorces pour non-respect de cet hypothétique devoir conjugal, est-ce qu'il y en a vraiment? Ou est-ce qu'on parle d'un truc très théorique?
Il y a 250 000 mariages en France chaque année. Il y a 100 000 divorces à Paris. Il y a 10% de, divorces pour faute au grand maximum.
Et dans ces 10%
de divorces pour faute, les relations conjugales, ça reste résiduel.
Donc c'est plutôt pour le principe que pour le réel.
Exactement. C'est un message de symbole.
Merci beaucoup. Merci Karine Denoy-Monteux d'avoir été avec nous ce matin, avocate et vice-bâtonnière du barreau de Paris. Il est 7h22, vous n'hésitez pas à réagir au 32-16, à évidemment cette question du devoir conjugal. Dans un instant, on va remonter le temps avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
L'historien d'RMC. Arthur, Pierre Ninet en gourou charismatique aujourd'hui au cinéma, ça vous a rappelé des personnages célèbres de l'histoire?
Et oui, est-ce que vous vous souvenez de Raël, hein, ce gourou français qui a fait croire à des milliers de personnes qu'il était en contact avec des extraterrestres, accusé de viol et de pédophilie. Il s'est depuis enfui au Japon.
Vous nous le racontez dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, il est 7h22.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On remonte le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, c'est aujourd'hui que sort en salle le film Gourou avec Pierre Ninet dans le rôle principal. L'acteur, il incarne un coach en développement personnel, c'est très très à la mode, mais d'un genre un peu particulier.
Et oui, un coach qui déchaîne les passions et qui devient un véritable guide pour des milliers de personnes. Alors le phénomène prend une ampleur telle que le gouvernement finit par s'inquiéter et se demander et si ce coach était en train de devenir le gourou d'une nouvelle secte.
Vous croyez qu'aujourd'hui, quelqu'un pourrait fonder à nouveau une secte?
Mais bien sûr, rien ne l'empêche. Devenir gourou, ce n'est pas une question d'époque, c'est une question de charisme. Apolline, un des premiers gourous du XXe siècle, c'était Jim Jones. Alors au début, c'était un garçon plutôt sympa. Il devient pasteur, il fonde sa propre église à Indianapolis dans les années 1960. Cette église, elle s'appelait le Temple du Peuple, tout un programme, et ça marche. Il attire jusqu'à 30 000 fidèles. Forcément, ça lui monte à la tête. Et là, il se met à raconter qu'il est la réincarnation à la fois de Jésus et de Lénine, ce qui fait un peu beaucoup.
Et ça va mal finir.
Oui, ça part en vrille, puisqu'il emmène toute sa communauté en Amérique du Sud, en plein milieu de la jungle. Et effectivement, ça se termine en drame. Le 18 novembre 1978, plus de 900 personnes sont retrouvées mortes, la plupart empoisonnées. Au milieu de la jungle, l'enquête conclut à un suicide collectif. C'est le plus grand suicide collectif de l'histoire.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples aux États-Unis?
Oui, la secte des Davidiens. Alors ça, c'est dans les années 1980, à la tête de cette secte, un psychopathe qui s'appelait David Koresh. Alors il va imposer la polygamie à sa communauté, y compris d'ailleurs avec des femmes mineures. Cette communauté, où il y avait beaucoup de familles, vivait totalement reclus au Texas. Les enfants n'allaient pas à l'école. À la place, ils faisaient des exercices militaires. Évidemment, au bout d'un moment, les autorités s'inquiètent, normal. Et en 1993, le FBI finit par lancer un assaut. Là où tout le monde était retranché, la secte résiste. Au cours de l'affrontement, un incendie éclate. Une tragédie, Apolline. 87 victimes, dont 23 enfants.
Et en France, il y a bien sûr eu Raël.
De son vrai nom, Claude Vaurillon, au début des années 70, ce chanteur raté et ancien pilote automobile prétend avoir rencontré des extraterrestres. Et il est entendu, certains le croient. À partir de là, Raël rassemble une communauté où tout le monde croit aux extraterrestres, mais pas seulement, puisque c'était aussi un lieu de totale liberté sexuelle. Raël devient une star médiatique, il est reçu à la télé. C'est une sorte de clown illuminé dont tout le monde se moque. Mais la blague s'arrête le jour où il est soupçonné de pédophilie. Donc là, il s'expatrie au Canada, mais il fait encore parler de lui, en prétendant avoir cloné le premier bébé. Évidemment, c'était un canular, mais rien ne l'arrête. Malgré les scandales, surtout sexuels, il faut bien le dire, le mouvement continue. Raël, aujourd'hui, est toujours en vie. Il a 79 ans et il est au Japon.
Incroyable, j'avais pas imaginé qu'il était toujours en vie. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Gourou, c'est donc le nouveau film de Yann Gozlan avec Pierre Ninet et ça sort aujourd'hui en salle. On partira dans un instant... pour vous écouter au 32-16, bien sûr, vos témoignages. Dans un instant également, parce qu'il est 7h27, on va se retrouver pour la météo et le journal de 7h30. Juste après le journal, plus de titres de séjour, plus d'expulsions, mais moins d'arrivées pour motif économique. À 7h40, on décrypte les derniers chiffres de l'immigration. Et à 7h50, la voix de droite sur RMC, Louis Sarkozy, il a une proposition assez clivante, vous allez voir. Lui, il veut pas un président au SMIC. Au contraire, il estime qu'il faut mieux payer les politiques. N'hésitez pas à réagir au 32-16. Il est 7h27. Il est 7h29, Géraldine, ça se calme dans l'Ouest.
Oui, mais alors très temporairement, hein, et on est toujours en vigilance orange sur la Bretagne pour les crues. Et puis alors à l'autre bout de la France, on est en vigilance orange cette fois-ci pour les avalanches dans les Alpes du Sud, puisque c'est dans l'Est aujourd'hui qu'on va avoir le temps le plus perturbé, avec beaucoup de pluie, de la neige à basse altitude, et des pluies vraiment intenses hein, sur le Sud-Est, du côté d'Antibes par exemple. En l'espace d'une heure, il est tombé plus de 20 mm de pluie. Dans l'Ouest, oui, c'est plus calme, on a des éclaircies, il peut y avoir aussi pas mal de grisailles, et puis on aura quelques averses. Ça n'est pas grand-chose vers les Pyrénées ou encore la pointe bretonne. Les températures, on est souvent entre 2 et 5 degrés hein, ce matin, c'est plus doux près de la Méditerranée. Cet après-midi, comptez 7 degrés à Lille, à Clermont-Ferrand, 8 à Paris, à Lyon, 11 à Bordeaux, 12 à Marseille, jusqu'à 15 pour Bastia.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. De possibles manquements reconnus par l'administration Trump à Minneapolis et la voix d'un Français qui pèse aux États-Unis. Le basketteur Victor Wembanyama a pris la parole pour dénoncer les pratiques de la police de l'immigration américaine. En France, la campagne de vaccination contre la grippe prolongée d'un mois face à la recrudescence des cas, notamment chez les enfants. Et puis ce chiffre qu'RMC vous révèle ce matin, entre 2018 et 2024, la moyenne d'âge des patients est passée de 48 à 42 ans dans les cabinets de médecine esthétique.
C'est une sortie qui ne passe pas inaperçue.
Victor Wembanyama a donc pris la parole pour la première fois hier après la mort de deux manifestants à Minneapolis, tués par la police de l'immigration américaine, et ce malgré la tentative d'apaisement de Donald Trump, qui a dépêché sur place l'un de ses proches conseillers. Le joueur français de NBA a fait part de son inquiétude, Cassandre Brault.
Oui, en marge de son entraînement avec les Spurs hier, Victor Wembanyama explique d'abord que son club lui a conseillé de ne pas s'exprimer sur le sujet avant de lâcher...
Je suis horrifié. C'est dingue que des personnes tentent de faire comme si assassiner des civils était quelque chose d'acceptable.
Mais le joueur français n'ira pas plus loin, car dire tout ce qu'il a en tête aurait un coût trop élevé pour lui, explique-t-il.
Je suis un étranger qui vit dans ce pays. Je suis inquiet, c'est certain.
Lundi déjà, sur son compte X, Gershon Yabusele, un autre joueur français de NBA, était monté au créneau après la mort de deux citoyens américains abattus par des agents de la police anti-immigration, en parlant de meurtre et de situation qui devait changer. Un peu plus tôt, c'est le syndicat des joueurs de la NBA qui avait également publié un communiqué pour exprimer sa solidarité avec les habitants du Minnesota qui manifestent et qui risquent leur vie pour demander justice.
Et ce matin, le conseiller de Donald Trump à Minneapolis reconnaît de possibles manquements au protocole après la mort du deuxième manifestant le week-end dernier. En France, les juges n'ont pas retenu l'erreur de manipulation avancée par Joël Guerriau, l'ancien sénateur condamné hier pour avoir drogué sa collègue députée Sandrine Josso afin de la violer. Le jugement est tombé dans la soirée. 4 ans de prison, dont 18 mois ferme, avec 5 ans d'inéligibilité pour celui qui plaidait l'accident. Il est 7h33 sur RMC et la campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu'au 28 février. Annonce hier du gouvernement alors qu'elle devait prendre fin samedi. La décision a été prise car le virus circule toujours activement, et ce dans toutes les régions de France métropolitaine, Bérangère Bocquillon.
Et c'est surtout chez les enfants que la grippe circule. Les consultations, mais aussi les passages aux urgences, ont progressé chez les moins de 15 ans touchés par la grippe depuis la rentrée scolaire de janvier. C'est pourquoi, si la grippe est actuellement en baisse chez les adultes, Santé publique France craint une recrudescence des cas dans les semaines à venir. Actuellement, la moitié des personnes qui ont été admises en réanimation pour cause de grippe ont plus de 65 ans. Les trois quarts n'étaient pas vaccinés. Et même si l'efficacité du vaccin est modérée, reconnaît Santé publique France, il reste une vraie protection pour les personnes fragiles. L'an dernier, la grippe a tué 17 600 personnes en France.
Il est 7h34 sur RMC et alors que l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans fait son chemin en France, adoptée cette semaine à l'Assemblée, voilà un argument supplémentaire qui pourrait peser dans les débats. Le boom de la chirurgie esthétique chez les plus jeunes, c'est le choix de la rédaction ce matin avec ce chiffre qu'RMC vous révèle. Entre 2018 et 2024, la moyenne d'âge des patients est passée de 48 à 42 ans dans les cabinets de médecine esthétique. Et vous l'avez constaté au cours de votre enquête, Rachel Sadodine, les professionnels reçoivent des profil bien plus jeune qu'avant.
Oui, le docteur Florent Bonnet, chirurgien plasticien esthétique, membre du syndicat de la profession, le constate. Il a accepté de m'ouvrir les portes de son cabinet à Dijon et il est installé là-bas depuis 20 ans. Sa patientèle a drastiquement rajeuni. Aujourd'hui, un tiers a entre 18 et 35 ans. Fait rare, il a même laissé notre micro pendant une première consultation, celle d'une patiente. Une patiente, vous allez entendre, très jeune. Elle est mineure, elle a 16 ans.
J'aimerais faire une chirurgie du nez parce qu'il ne me plaît pas trop.
Qu'est-ce qui vous gêne ?
Je vois une petite bosse là.
D'accord.
Qui me dérange.
La bosse, elle est petite quand même.
Oui, c'est pas une bosse énorme. Mais à force de le voir, c'est un peu, on fait un peu une fixette dessus.
La jeune femme, elle a une idée bien précise du nez qu'elle désire. Et il n'y a là rien de très original selon le docteur Bonnet.
Vous avez quand même sur les réseaux sociaux toujours les mêmes types de nez, un petit peu retroussés, avec une pointe un peu remontée. Ces images vous sont proposées à longueur de journée. La personne qui se connecte sur les réseaux sociaux peut finir par s'identifier à ça.
Le chirurgien n'opérera pas Lola avant sa majorité. Et face au refus, certaines patientes se tournent vers des pratiques illégales proposées sur les réseaux sociaux par des personnes qui n'ont aucun diplôme de médecine. Elles font aussi des injections, du botox, de l'acide hyaluronique. La médecine esthétique est elle aussi de plus en plus populaire chez les jeunes. Nos confrères de BFM TV révèlent ce matin que 52% des jeunes femmes de 18 à 35 ans y ont déjà eu recours ou bien l'envisagent.
Une enquête signée Rachel Sadodine pour RMC. Il est 7h36. Qui ira aux Jeux Olympiques d'hiver chez les skieurs français? Il y a, vous le savez, un 8e ticket attribué aux Bleus. On attendait le multimédaillé Alexis Pinturo. Mais c'est Alban Elesi Canaferina qui a créé la surprise hier aux Mondiaux en Autriche et qui fait désormais figure de grand favori, Léna Marjac.
C'est un grand, très très grand champion à seulement 22 ans. Alban Elesi Canaferina a créé la surprise. Sur une piste complètement glacée, le géantiste a réalisé l'un de ses rêves, monter sur un podium en Coupe du Monde.
C'est fou, je sais pas quoi dire. On est à quelques semaines des Jeux, j'espère pouvoir y aller. Et ouais, c'est dingue.
Et oui, parce qu'avec cette troisième place, Alban rabat totalement les cartes et prend un vrai avantage pour récupérer ce 8e et dernier ticket olympique.
J'ai envie d'aller au jeu parce que c'est la course d'un jour et j'ai envie de jouer, j'ai envie de prendre du plaisir et d'essayer de produire le maximum d'émotions aux gens et d'aller chercher des médailles.
Le sourire d'Alban Elesi Canaferina contraste avec les tristes mines d'Alexis Pinturo et Thibaut Favreau. Tous les deux le savent, leur place aux Jeux Olympiques est maintenant compromise.
Je ne sentais pas forcément pris par cet enjeu-là, ce qui est mieux aujourd'hui que je le skie en début de saison. Pour autant, le résultat est pas bon.
Donc, sans doute un rêve olympique qui s'envole pour moi, c'est dur.
Ce 8e ticket olympique sera annoncé ce soir après le slalom nocturne de Schlamming où seul Victor Mufajandé peut venir tout chambouler en cas de victoire ou de deuxième place.
Soirée importante ce soir en Ligue des Champions pour les trois clubs français engagés. À 21h, Paris reçoit Newcastle pour tenter de se qualifier directement en 8e de finale pendant que Marseille se déplacera sur la pelouse de Bruges pour décrocher une place en barrage, tout comme Monaco qui affronte la Juventus. Tous les matchs à 21h à vivre sur RMC avec une soirée spéciale dès 20h suivie de l'after jusqu'à minuit et demi.
Et puis le quintet, Élise, 13h55 à Pau.
Et voici notre pronostic du jour. Le favori, c'est le numéro 16, Kim Fly. L'outsider, c'est le 15, Furioso.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h38, on vous le disait tout à l'heure, les députés vont supprimer aujourd'hui la notion de devoir conjugal, c'est-à-dire l'idée qu'une personne mariée doive accepter d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Ça vous fait réagir, Samuel, vous nous avez appelé au 3216. Bonjour Samuel.
Oui, bonjour.
Samuel, vous êtes routier dans le Calvados. Vous n'êtes pas pour la suppression de cette notion?
Moi, je pars du principe que le mariage, quand on se marie, c'est on accepte d'avoir... Je parle pas que pour les rapports, je parle pour toutes les décisions du couple. Mmh. C'est à deux, on est d'accord pour faire notre vie à deux, on est d'accord pour avoir des rapports. Bon, ouais, forcément, le jour qu'on a envie d'avoir un rapport, faut que les deux soient d'accord. Mmh. Mais quand on se marie, le contrat, c'est ça, c'est de faire notre vie à deux, ensemble, en couple, et que les décisions, toutes quelles qu'elles soient, qui rapporte au couple.
Vous estimez qu'il y a un consentement de départ, en quelque sorte, à partir du moment où on se marie. Vous êtes marié vous-même, Samuel ?
Oui, moi je suis marié, ça fait 17 ans qu'on est marié, j'ai deux enfants.
Ouais.
Ça fait 20 ans qu'on est ensemble avec ma femme.
Ouais.
Après, quand on
ces questions, vous en discutez ensemble ?
Mais bien sûr, on n'a même pas besoin d'en discuter, en fait. On sait quand l'autre a envie ou pas, ça se voit, quoi.
Oui, enfin, il vous arrive d'avoir envie, madame pas, et de vous dire, c'est pas grave, ce sera pour plus tard.
Exactement. Mais voilà. D'ailleurs, c'est régulièrement dans ce sens-là, c'est souvent moi qui ai envie et madame qui a pas envie, et puis tant pis.
Voilà.
Tant pis, c'est faux.
Ça veut donc bien dire que vous dites, il n'y a pas besoin d'enlever cette notion, mais vous respectez au quotidien l'idée qu'il n'y a pas de devoir conjugal.
Moi, le devoir conjugal, je trouve qu'il est, on a un devoir de le faire à deux.
Global.
Voilà. Je veux dire, c'est dans ce que je parle de devoir conjugal, c'est pas aller voir ailleurs, pas se tromper. C'est ça pour moi le devoir conjugal, c'est d'avoir des relations ensemble. Ça paraît évident, il faut que les deux soient consentants pour avoir des rapports. Enfin, c'est même pas une question en fait.
C'est ce que vous dites, Samuel. Ce qu'il y a, c'est que la raison pour laquelle ça doit être, semble-t-il, supprimé des textes, c'est aussi parce que certains ne sont pas comme vous, Samuel, et considèrent effectivement que même quand l'autre n'est pas d'accord, c'est une forme de devoir, d'obligation, en quelque sorte. Alors après, là où vous avez raison, c'est que il y a beaucoup d'autres notions qui sont évoquées. On en parlait tout à l'heure avec l'avocate, comme la question de la fidélité qui est écrite noir sur blanc au moment où l'on parle, où l'on s'engage à deux. Pour autant, ensuite, il n'y a pratiquement plus aujourd'hui de divorce où l'on puisse rejeter sur l'autre la faute. Je vais même vous dire, je trouve étrange qu'il y ait encore l'idée même de divorce pour faute. C'est une question qui a été quand même vidée aussi de son sens. Mais Samuel, en tout cas, vous êtes heureux et vous considérez qu'au quotidien, ce consentement, il est quand même au moins dit, au moins cherché chez l'autre.
Il n'y a plus besoin.
Sinon, c'est... Voilà.
De toute façon, je pense que les gens le savent bien. Quand vous avez envie d'avoir un rapport avec votre conjoint et que votre conjoint n'a pas envie, besoin d'insister deux heures. Au bout de cinq minutes, on s'en rend compte.
Les choses sont très claires, visiblement, pour vous, Samuel. N'hésitez pas à dire à madame de nous appeler aussi. Elle est la bienvenue au 32-16. Samuel, merci en tout cas d'avoir réagi et témoigné. Il est 7h41 sur RMC. L'immigration qui atteint un niveau record en France, on en parle dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h45 et vous êtes bien sur RMC. L'immigration a atteint un niveau record en France, mais pas l'immigration de travail. C'est un sujet clivant. Est-ce qu'il faut finalement plus d'immigration pour favoriser notre économie ? Bonjour Jean-Christophe Dumont.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chef de la division des migrations internationales à l'OCDE. C'est une forme de paradoxe français parce que oui, l'immigration atteint un record. Donc le nombre de titres de séjour n'a jamais été aussi élevé. Sauf que dans le même temps, les motifs économiques, les arrivées pour motifs économiques sont en baisse de 13%. Comment vous expliquez cette apparente contradiction ?
Alors d'abord, 13%, il faut un petit peu nuancer, parce que ça veut dire 7000 de moins que l'année précédente. À l'échelle du marché du travail français, c'est pas ça qui fait une différence significative. Mais effectivement, il y a une tendance à la stabilisation d'une catégorie de migration qui avait fortement augmenté ces dernières années. Le nombre de titres pour motifs économiques a triplé en 10 ans. Il reste à un niveau relativement élevé. Mais c'est vrai que l'économie française marque un petit peu le pas. Et on retrouve ça dans les statistiques.
En fait, ce chiffre dit davantage de notre économie que de la question de l'immigration.
Absolument. Alors après, il faut un petit peu nuancer et de deux manières différentes. La première, c'est qu'évidemment, il y a eu des recommandations qui ont été faites aux préfets en général, notamment pour les régularisations au titre du travail, les autorisations exceptionnelles du séjour, mais plus généralement pour les titres de travail, en particulier saisonniers, de porter une attention accrue sur...
Baisse du nombre de visas saisonniers, à la fois pour les questions d'agriculture, de tourisme...
Absolument, notamment...
Deux métiers en tension.
Oui, alors pour l'agriculture spécifiquement, parce qu'effectivement il y a un doute sur un certain nombre de contrats et on a demandé au préfet de porter une attention accrue, donc peut-être qu'une partie de cette baisse est attribuable à ça. Ce qui est intéressant dans ces statistiques, c'est qu'en même temps qu'on voit une baisse des entrées pour motifs économiques, on voit une augmentation du nombre de titres valides pour motifs économiques. Et ce paradoxe vient du fait qu'il y a eu une augmentation des renouvellements. et aussi d'autres personnes qui avaient des titres antérieurement, par exemple des Ukrainiens, qui ont obtenu des titres au titre du travail. Et donc, en réalité, ça dit que même s'il y a une petite inflexion, l'économie française a quand même besoin de cette migration de travail.
L'économie française, pour vous, a besoin de cette migration de travail. On voit que l'Espagne, par exemple, dans le même temps, a décidé de régulariser 500 000 sans-papiers officiellement pour des raisons précisément économiques, pour soutenir la croissance, disent-ils. C'est l'inverse de ce qu'on fait.
Alors, effectivement, c'est un choix de société, c'est un choix politique de la part de l'Espagne qui est un petit peu singulier dans le contexte européen aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher.
Les autres pays, c'est plutôt l'inverse, hein, y compris des pays tout à fait socialistes ou sociodémocrates, comme les pays du nord de l'Europe, qui, eux, restreignent considérablement aujourd'hui l'immigration.
Oui, notamment la Suède, principalement l'immigration humanitaire, mais aussi l'immigration de travail, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, la Belgique. On peut citer une liste de pays, effectivement, qui sont plutôt qui ont le pied sur le frein plutôt que sur l'accélérateur. L'Espagne, c'est pas le cas. Entre 2022 et 2024, on a une immigration nette de 2 millions de personnes en Espagne. C'est équivalent à ce qu'on avait observé dans le début des années 2000, c'est-à-dire c'est des niveaux d'immigration qui sont extrêmement important. 76% des créations d'emplois en Espagne depuis 2019 ont été remplies par des travailleurs immigrés. Pour l'Espagne, l'immigration, notamment l'immigration de travail, c'est le moteur de la croissance.
Je voudrais aussi vous interroger sur la proposition de Gérald Darmanin. Il dit qu'il faut mettre sur pause toutes les entrées pendant 3 ans avant de mettre en place potentiellement un référendum avec des quotas d'immigration. Est-ce que ça vous paraît réaliste ?
Bon, la question va consister à savoir de quoi on parle exactement. Est-ce qu'on parle des plus de 80 000 Européens qui viennent s'installer en France durablement chaque année, des près de 380 000 travailleurs détachés qui viennent en France chaque année ? Est-ce qu'on parle des 40 000 Français qui se marient avec des étrangers chaque année ? Est-ce qu'on parle des près de 55 000 personnes qui ont obtenu un titre pour raison humanitaire parce que la France est signataire de la Convention de Genève ? De qui parle-t-on exactement? Est-ce qu'on parle des 118 000 titres d'étudiants? Est-ce qu'on veut mettre toutes ces catégories en pause?
Est-ce qu'on veut tout mettre sur pause ou pas?
Voilà. Et si ce n'est pas le cas, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle précisément de ces 51 000 titres qui sont octroyés au titre de l'emploi? La France est tout à fait légitime à décider de ne plus délivrer de titres au nom du marché du travail, mais effectivement, ça aura aussi des implications dans un certain nombre de secteurs. Les secteurs en tension, notamment des secteurs non qualifiés, les aides à domicile, l'entretien, l'hôtellerie-restauration, etc.
Merci beaucoup. Je poserai la question à Gérald Darmanin aussi précise que cela. Je l'essayerai en tout cas la prochaine fois qu'il sera face à moi. Merci d'avoir en tout cas précisé avec nous tout cela. Jean-Christophe Dumont, vous êtes économiste à l'OCDE. La voix de droite est entrée dans ce studio. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Apolline.
Louis, François Ruffin s'est officiellement déclaré candidat pour la présidentielle en 2027 avec un slogan, c'est plus le président normal, c'est le premier président au SMIC. Est-ce que c'est une bonne idée à vos
yeux ? C'est une très mauvaise idée. Si vous voulez des meilleures politiques, il faut mieux les payer.
Donc vous êtes pour payer plus.
Absolument.
Plutôt que moins. Vous nous le dites dans un instant et n'hésitez pas à réagir au 32-16. Il est 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus, Mathieu. Emmanuel Macron amuse des internautes du monde entier.
Ah, on a plus parlé de ses lunettes de soleil que de son discours à Davos. Or, son anglais franchouillard a amusé aussi.
Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure.
For sure. Bien sûr, en anglais. Un extrait qui fait du président français un mème. Une vidéo partagée maintes fois sur les réseaux et remixée, comme vous l'entendez, par des DJ ici. DJ Benz qui chauffe sa salle avec du Macron. J'ai aussi Bilal Hassani qui reprend les mots d'Emmanuel Macron et qui écrit « Si for sure de Macron était un tube disco », voilà ce que ça donne. Même Keir Starmer, le Premier ministre anglais, s'est amusé du buzz Macron en chaussant les lunettes de soleil. Le président français lui a répondu avec une réplique de Top Gun. Bref, je ne sais pas ce qu'on pèse à l'international, mais je sais qu'on a beaucoup amusé la galerie cette semaine.
« Which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. »
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Il est 7h53 et c'est le jour de la voix de droite. Louis Sarkozy, bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Le député de la Somme, François Ruffin, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle et il a un slogan, il veut être le premier président au SMIC. Mmh. Vous n'êtes pas du tout d'accord?
Non, pas du tout, Apolline. C'est du gauchisme démagogique à l'état pur. C'est une erreur totale, une erreur intellectuelle, une erreur politique et surtout une erreur parfaitement dangereuse pour la France.
Ouais, enfin, ça peut parler aux Français. L'idée d'un président, c'est un peu le nouveau président normal.
Oui, parce qu'elle flatte une vieille idée française. Plus un responsable est pauvre, plus il serait virtueux. Or, c'est faux. C'est même l'inverse. Un pays sérieux paye bien ceux à qui il confie le pouvoir, ceux à qui il fait confiance, ceux qui ont la charge de le guider. Aujourd'hui, un ministre en France gagne un peu plus de 10 000 euros brut par mois, un député environ 7 600 euros, le président de la République, lui, autour de 16 000 euros brut. Ce ne sont pas des petits salaires, qu'on soit clair, mais c'est très peu au regard des responsabilités et ridicule face au privé.
Même avec des chiffres pareils, vous allez nous dire qu'ils sont sous-payés ?
Oui, structurellement, un bon dirigeant compétent, cultivé, expérimenté dans le privé gagne 2, 3, 5 fois plus et surtout... il a la paix. En politique, c'est l'inverse. Salaire plafonné, audit permanent, vie privée passée au scanner, famille exposée, insultes quotidiennes, soupçons, constants. Résultat, les meilleurs ne viennent pas ou ils partent.
Donc le président au SMIC, c'est une fausse bonne idée pour vous?
C'est de la démagogie. Gouverner la France, ce n'est pas faire un geste symbolique, ce n'est pas jouer aux plus pauvres. C'est gérer un pays endetté, une armée, une diplomatie, une économie. Des crises majeures, cela demande des facultés exceptionnel, d'où la folie d'ailleurs du président Hollande d'avoir voulu être un président normal. Il y a eu 8 présidents dans l'histoire de la 5e République et il faut être tout sauf normal pour y parvenir. Pour être président, il faut être exceptionnel et on n'attire pas des êtres exceptionnels avec un SMIC.
Enfin, augmenter les salaires des politiques, vous n'allez pas vous faire que des amis, Louis.
Oh, écoutez, ma chère Apolline, je commence avec vous à avoir l'habitude. C'est impopulaire, mais c'est nécessaire. Si vous voulez moins de corruption, vous payez bien. Si vous voulez des ministres compétents, vous les mettez en concurrence avec le privé. Si vous voulez des dirigeants brillants, vous rendez la fonction désirable. Servir sa nation est un honneur. Il faut aussi que ça soit attractif. Il faut attirer les meilleurs. Il faut que les jeunes Français aient envie d'être élus plutôt que de partir travailler pour une start-up californienne. La politique doit redevenir désirable. Elle doit redevenir sexy. Or, aujourd'hui, en France, la politique est devenue une punition. On méprise les élus et puis on s'étonne de leur niveau.
Augmenter les salaires, ce serait la solution magique?
On revalorise clairement les rémunérations des ministres, oui. Aider aux responsables en échange d'exigences fortes, de compétences et de résultats. Et on réhabilite l'ambition politique. Vouloir servir l'État ne devrait jamais être une faute morale, ni un soupçon de malhonnêteté. Un pays est gouverné à l'image de ce qu'il respecte. Si la France continue de salir la fonction publique, elle aura des dirigeants faibles. Si elle veut une force, si elle veut une France plus forte, plus intelligente, mieux gouvernée, il lui faut des responsables meilleurs, plus cultivés, plus éloquents, plus solides, des dirigeants à la hauteur du pays. Et ça, comme dans le privé, ça a un coût.
Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC demain. Ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à réagir. Mieux payer nos politiques. Réagissez au 32-16. Il est 7h56. Dans un instant, la météo et le journal de 8h. À la une du journal de 8h, un violent incendie qui ravage un hôtel à Courchevel. Environ 200 personnes sont évacuées et l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. On y reviendra dès l'ouverture du journal. Et puis juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, une bonne et une mauvaise nouvelle concernant la fraude aux moyens de paiement.
Exactement, ça va mieux sur les cartes bleues, mais par contre, qu'est-ce qu'on se fait arnaquer pour le reste?
Vous nous le dites dans un instant avec vos conseils. 7h56, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, tout pile. Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il y a le feu ce matin dans la célèbre station de ski de Courchevel. Un incendie dans un hôtel depuis hier soir. Il se propage au bâtiment voisin. Ce matin, au moins 200 personnes évacuées d'après le bilan qu'on vient de recueillir à RMC. On se demandera dans ce journal comment des jeunes peuvent en arriver à une telle violence. 4 mineurs sont en garde à vue à Oullins, près de Lyon, pour avoir torturé et séquestré toute une nuit une adolescente de 15 ans. RMC est sur place. Et puis on évoquera tous les enjeux de la soirée de Ligue des Champions. Ce soir sur RMC Le Foot, dernier match de poule pour Paris, Marseille et Monaco, tous les trois dans la course à la qualification.
Il y a donc le feu ce matin à Courchevel.
Oui, je vous laisse imaginer cette image des feux, des flammes dans la neige à Courchevel, donc une des stations de ski les plus huppées du monde. Ça se passe vraiment en plein cœur de la station Courchevel 1850, là où il y a les boutiques de luxe et les touristes les plus fortunés. Romain Houck, vous venez de recueillir les toutes dernières informations ce matin pour RMC sur cet incendie. C'est un hôtel 5 étoiles qui brûle donc depuis hier soir et l'incendie se propage ce matin.
Oui, le feu s'est déclenché vers 19h hier soir au niveau de la toiture de l'hôtel des
Grandes Alpes sans que l'on ne connaisse pour l'instant son origine. Il s'est propagé dans la nuit à une résidence mitoyenne. Le risque, me disait il y a quelques minutes le maire de Courchevel, eh bien, c'est qu'il se propage encore à d'autres bâtiments à proximité. C'est pour cette raison que l'hôtel Lana, un autre complexe 5 étoiles situé tout proche de l'incendie, a été évacué par mesure de précaution. Au total, plus de 200 personnes ont été évacuées. Aucune victime n'est pour l'heure à déplorer, mais c'est un incendie très compliqué à maîtriser pour la centaine de pompiers déployés sur place pour plusieurs raisons. D'abord, vous l'avez compris, c'est la configuration. On a de nombreux bâtiments très proches les uns des autres. Certains même sont entremêlés. Il faut donc éviter que l'incendie ne gagne du terrain. Ensuite, c'est un endroit de la station assez difficile d'accès pour les engins des services d'intervention. Les pompiers sont contraints de monter sur les balcons et les terrasses des bâtiments pour attaquer les flammes à l'aide de lances à incendie. Et puis, le feu brûle au niveau des toits enneigés, ce qui rend l'incendie assez difficile à lire, à analyser. Bref, opération très complexe pour les pompiers qui luttent en ce moment même sur place.
Voilà donc ce qu'on sait ce matin sur cet incendie à Courchevel, avec au moins 200 personnes donc évacuées dans cette station de ski. L'ancien sénateur Joël Guerriau va faire appel, lui qui a été condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme hier soir à Paris, reconnu coupable d'avoir drogué en vue de la violer la députée Sandrine Josso, qui se disait soulagée hier soir après le jugement. Dans la banlieue de Lyon, à Oullins précisément, ce sont donc 4 mineurs qui sont en garde à vue pour une sordide affaire de torture et de séquestration survenue dans la nuit de dimanche à lundi. Ils auraient fait vivre l'enfer, littéralement, à une adolescente de 15 ans. Vincent Chevalier, vous êtes en direct pour RMC ce matin dans le quartier où cette adolescente a été retrouvée errante le lendemain matin.
Oui, des passants découvrent lundi matin très tôt cette jeune femme dans la rue, ensanglantée. Très vite, les pompiers arrivent sur place, puis les policiers. Elle leur raconte alors les heures de calvaire subies dans un appartement voisin, ramenée depuis son foyer à Annecy, jusque dans le logement de son ex-petite amie. La victime se retrouve face à 3 autres agresseurs, une fois sur place, des filles mineures entre 14 et 17 ans, dont la nouvelle petite amie du garçon. Et c'est alors que le piège se referme, emmené dans le sous-sol de l'immeuble, déshabillé, torturé, un coup de couteau dans la cuisse, des lacérations dans le dos, des brûlures provoquées par le contenu d'un extincteur. Certains de ces sévices auraient même été filmés. Mais lundi matin, dans des conditions encore inconnues, la jeune fille réussit à s'échapper et quelques heures plus tard, les enquêteurs interpellent 5 personnes, dont les 4 tortionnaires présumés. Tous semblent inconnus des services de police.
Merci Vincent Chevalier. Il est 8h03 sur RMC. Et une question ce matin. La voiture est-elle en train de devenir un produit de luxe?
Résultat de l'enquête menée par un assureur. 90% des Français estiment que posséder une voiture coûte trop cher. Et 74% disent même que c'est donc devenu un produit de luxe. Un luxe d'en posséder une, en tout cas avec les frais incompressibles qui ont doublé en 10 ans. C'est ce que nous dit cette étude. La preuve, écoutez à Rennes avec Martin Lange.
Depuis une dizaine d'années, Anthony n'utilise plus sa voiture au quotidien. Pour se rendre sur son lieu de travail, il parcourt 9 km à vélo et il fait des économies.
Quand on regarde la carte grise, l'assurance, l'essence, les pannes, ça se chiffre globalement en milliers d'euros. Alors qu'un vélo, on se rend compte que la différence, elle est quand même assez énorme. Au minimum de plusieurs centaines d'euros, voire de milliers d'euros.
Avec sa compagne, ils ont gardé une voiture pour partir en week-end. Victime d'une panne il y a 2 ans, Muriel, elle a décidé de se passer définitivement de son véhicule.
Changer le moteur, ça coûte au moins 6-7 000. Hein. J'ai pas les sous non plus. C'est un budget. Ouais, les assurances, l'essence, le gasoil, je renonce à ça. Oui.
Désormais, elle circule avec un vélo électrique acheté 700 euros. Eric, lui, a vendu sa voiture il y a 5 ans.
On trouvait que ça coûtait cher, quoi. Payer une assurance, l'entretien, on se dit qu'on gagne à peu près au moins 100 euros par mois.
Ces coûts incompressibles, ils pèsent sur de nombreux Français, selon Thomas Utayakumar de la Fondation pour la Nature et l'Homme.
On sort de l'imaginaire, la voiture, c'est la liberté. C'est pas ça la réalité. C'est qu'on a des millions de personnes en situation de précarité mobilité qui cherchent à se mouvoir autrement que par la voiture qui coûte très cher.
Mais ces comportements restent marginaux. Aujourd'hui, la voiture représente encore près de 63% des trajets quotidiens.
Les dirigeants du Danemark et du Groenland sont reçus par Emmanuel Macron à Paris aujourd'hui pour remercier les Européens et notamment les Français d'avoir fait bloc face aux menaces récentes de Donald Trump. La France enverra d'ailleurs début février un tout premier diplomate au consulat français situé au Groenland. Aux États-Unis, tiens, puisqu'on en parle, Donald Trump semble reculer. Il annonce un début de retrait de sa police de l'immigration à Minneapolis, devenu le symbole de la politique d'expulsion massive du président américain, où 2 Américains ont été tués dans des opérations de police en 3 semaines. En revanche, cette police de l'immigration, eh bien, elle sera bien présente aux Jeux Olympiques, c'est en 9 jours, qui débuteront à Milan Cortina en Italie pour des opérations de renseignement. C'est la précision qui a été faite autour de la délégation américaine. Le maire de Milan dit déjà que cette police de l'immigration américaine n'est pas la bienvenue.
Et c'est une soirée pleine de suspense qu'on va vivre ce soir sur RMC.
Et que vous allez animer. Jean-Louis Tour, chef de la cellule foot à RMC en direct avec nous ce matin. C'est la dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Les 18 matchs, tous en même temps à 21h. Et de l'enjeu pour nos trois clubs. On va commencer par Paris face à Newcastle pour se qualifier directement en huitième de finale.
Oui, c'est l'idée pour le PSG d'aller directement en huitième et d'éviter les deux matchs supplémentaires du barrage. Ce sera un gain d'énergie précieux dans un calendrier chargé pour le PSG cette année. Et pour y parvenir, l'entraîneur pourra compter sur le retour d'Hakimi, l'un de ses meilleurs joueurs qui a passé le mois de janvier à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le PSG qui reste sur une fausse note dans cette compétition avec une défaite au Portugal contre le Sporting.
Marseille et Monaco, respectivement à Bruges et contre la Juventus, eux joueront pour rester dans la compétition.
Oui, alors l'OM a près de 95% de chances de se qualifier pour disputer ce barrage. Il faudrait perdre à Bruges et que dans le même temps, 6 équipes dépassent l'OM. Alors l'objectif sera surtout de poursuivre sur la lancée du gros match marseillais contre Lens en championnat samedi. Et en cas de bons résultats en Belgique, eh bien l'OM se qualifierait enfin après une phase de poule de Ligue des Champions. La dernière fois, c'était en 2012. Et puis Monaco est un peu moins bien loti, 2 places derrière Marseille. La SM qui devra prendre un point contre la Juventus Turin, un gros morceau. Et le problème, c'est que les Italiens sont en forme et les Monégasques pas du tout. 4 défaites sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 et une humiliation sur la scène européenne, 6-1 à Madrid, à faire oublier bien sûr pour s'offrir un avenir européen.
Voilà donc pour les enjeux de la soirée qui nous attend ce soir sur RMC, les coups d'envoi de tous les matchs en même temps, donc à 21h, on vivra ça ce soir. Je vous signale aussi, il y a l'Euro de handball en ce moment, pas le droit à l'erreur pour la France contre l'Allemagne qui jouera à 18h, c'est la fin du tour principal avec à la clé une place en demi-finale.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour.
La fraude aux cartes bleues est en baisse.
Absolument, elle a reculé de 10% au premier semestre 2025, c'est les derniers chiffres dont on dispose et qui viennent d'être publiés. Donc moins 10% par rapport aux 6 premiers mois de 2024, c'est ce que nous disent la Banque de France et l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Ça ramène ce niveau de fraude à ses plus bas niveaux historiques. En gros, 48 euros de fraude pour 100 000 euros de paiement par carte. On était à 53 euros un an plus tôt. Donc, tous les dispositifs mis en place pour sécuriser nos paiements, l'authentification forte avec la biométrie, par exemple, le visage, l'empreinte, le code à usage unique qu'on reçoit sur son portable, ok, c'est fastidieux, le numéro de carte jetable, l'intelligence artificielle utilisée par les banques, tout ça, c'est parfois un peu pénible, mais ça fonctionne.
Ça marche dans l'ensemble. Est-ce que globalement, les fraudes, on les maîtrise et ça progresse.
Alors, ce qui progresse, c'est les fraudes. C'est ça qui est fou, c'est que ça diminue sur les cartes bancaires, mais ça augmente assez nettement sur l'ensemble des fraudes. Plus 7%, c'est une progression plus rapide que celle des moyens de paiement dans leur ensemble. Et c'est dû à la très forte progression de la fraude par manipulation. On est à quasiment 40% d'augmentation de cette fraude par manipulation sur un an. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, à utiliser des numéros banalisés, des 06, des 07, pour adresser des SMS frauduleux ou passer des appels usurpant l'identité d'un tiers ou d'un organisme. Ça peut être la banque, la sécurité sociale, une société de livraison. On vous fait croire que vous êtes victime d'une arnaque et qu'il faut vous protéger, qu'un paiement est refusé, qu'un colis est en attente, que l'IBAN d'une société a changé. Tout est bon pour vous soutirer vos coordonnées bancaires.
Comment on fait pour éviter de se faire arnaquer?
Alors, ces techniques d'escroquerie, elles exploitent toujours les mêmes ressorts, l'urgence, la peur, l'autorité, la confiance, l'émotion, la générosité, tout ce qui peut nuire à votre lucidité et vous empêche de garder votre sang-froid. La sécurité technique, elle est solide. Le maillon faible, il faut bien s'y résoudre. C'est nous, les voyants rouges qui doivent s'allumer.
C'est nous, l'humain, quoi.
C'est ça, c'est ce qui se passe entre le siège et le clavier.
Ouais, en gros, vous nous dites à chaque fois que c'est ça.
C'est ça.
Là, en l'occurrence, entre le siège et le téléphone.
Exactement. Les voyants rouges qui doivent s'allumer quand même dans votre lettre, c'est des injonctions du type « il faut agir tout de suite ». C'est les appels entrants que vous ne maîtrisez pas. On ne fait jamais confiance à ces appels. Éventuellement, vous appelez le numéro qui est au dos de votre carte bancaire. Par exemple, jamais vous ne communiquez le moindre code au téléphone, par SMS ou par mail. Jamais. Et si on vous demande d'agir pour votre sécurité, n'oubliez jamais que c'est souvent pour vous voler.
Merci Emmanuel. Par principe, on ne fait pas confiance.
Non.
Voilà. Emmanuel Le Chypre, il est 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demange. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le président de l'UDR, allié du RN, Éric Ciotti. Juste après, il y aura Nicolas Cantelou et ses imitations face à Cantelou. C'est tous les jours sur RMC à 8h50. On se retrouve dans un instant. Restez bien avec nous. 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 sur RMC, c'est tous les jours de manche, sauf que bon, notre pauvre de manche, il a un très 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 gros rhume. On lui souhaite donc un prompt rétablissement et en attendant, on vous en a gardé le meilleur. Le député Emmanuel Dupont. C'est pas celui-là.
Un nouveau.
Propose d'interdire la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée et de ne plus la rembourser avec les frais de mandat.
Voilà, on paye pour que nos députés puissent se bourrer la gueule juste avant d'aller voter nos lois. Mesdames et messieurs, la France.
Pas mal, non? C'est français.
Est-ce qu'il y a un autre métier où tu payes de l'alcool à quelqu'un juste avant qu'il fasse quelque chose de déterminant pour toi? Quand même, Apolline, Gérald, Virginie, si vous avez besoin d'une opération à cœur ouvert et que le chirurgien s'enfile un grand verre de rouge remboursé par la Sécu, vous vous dites, il y a peut-être une arnaque quelque part. Bon, allez, on va s'y mettre. Quelqu'un peut me passer la scie?
Non, non.
Je suis pas endormi, monsieur. Oh, pardon. Fais dodo, j'ai plus pain. Bref, quoi. Et alors, il y a un ancien député, Stéphane Vogetta.
Ah, lui non plus,
C'est pas alors bien. Lui, c'est marrant, il a un nom de perso de Dragon Ball. Stéphane Vogetta. Ça fait marrer que les fans de manga. Et alors, il a protesté sur Twitter, lui. Il a dit, c'est une pensée de perle à morale. On nous sort l'argument. Oui, le français moyen ne boit pas sur son lieu de travail. Mais le français moyen travaille-t-il de 9h à minuit, comme les députés? J'ai envie de te dire, mais c'est pire.
Ouais.
On va pas rajouter l'alcoolémie à la fatigue. En tout cas, je trouve que ça explique vachement bien l'état de ce pays.
Ah oui.
J'ai l'impression que c'est assez récent comme problème. Enfin, je me souviens pas de polémique du genre dans les années 90. J'aurais adoré, ceci dit, voir Édouard Balladur monter en titubant à la tribune en faisant
« Pour répondre à madame la députée Simone Veil. » Oh, Simone, elle est bonne, hein?
Non, non.
Simone, elle est bonne. La croissance redémarre comme la chenille, mais des deux pieds en canard. C'est la croissance qui redémarre.
Oh non.
Une pétition réclame des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports en Île-de-France.
Oui, mais bon, je me mets à leur place, ça fait flipper les transports parisiens. C'est terminé, un tramway nommé Désir. Maintenant, on est sur un RER nommé Oscar. Les wagons pour femmes, alors, je suis contre, totalement. Parce que ça m'obligerait, moi, à monter dans un wagon plein de mecs. Et moi non plus, j'ai pas envie. Moi non plus, je veux pas faire ça. Des mecs frustrés parce qu'il faut aller au boulot, qu'on est serré et qu'en plus, on leur a interdit d'acheter des poupées maintenant. C'est vraiment comme être en prison.
Quelle horreur.
Mais c'est vrai que pour les filles, c'est relou. Les frotteurs, les agresseurs, je me mets totalement à leur place. Les mecs qui draguent comme des bœufs dans les wagons. Faut le vouloir pour draguer dans le RER, d'ailleurs. Les mecs ont pas honte. Dans 6 mois, vous allez voir, Apolline, ils vont passer dans les wagons. Moi, je les vois déjà.
Non. Mesdemoiselles et mesdames, actuellement sans gonzesse, je me permets de passer parmi vous pour choper un numéro de téléphone ou deux, car ça fait maintenant 8 jours que je n'ai pas baisé. Si vous pouviez me dépanner d'une brouette javanaise, d'une cravate espagnole ou même d'un tourniquet norvégien, je vous en remercierais. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais ça, mais ça n'est pas facile de pécho quand on a ma tronche et mes boutons.
Oh non.
Je ne vous demande pas grand-chose, juste de me laisser toucher un nichon ou deux,
non.
Ou votre
non.
Ticket de métro. En vous remerciant d'avance, je vais maintenant passer parmi vous afin de frotter un maximum de cul. C'est affreux.
Non.
C'est affreux. Heureusement, on lutte contre ça. Il y a des campagnes de prévention. Il y a peut-être, les wagons séparés, on verra. Il y a surtout de la vidéosurveillance, Apolline. Ça se fait beaucoup. Comme ça, on pourra même bientôt, avec l'intelligence artificielle, identifier les harceleurs à la caméra, les archiver dans la data, et la machine les re-repérera s'ils viennent dans d'autres gares.
Oui.
Il y aura une annonce sur les quais, on entendra.
Non.
Le gros relou, numéro 6424, à destination d'une nana qui ne lui a rien demandé, va entrer en gare, voie C. Il dessert la cause masculine en général et emmerde des femmes à Strasbourg, Mulhouse, Vitré, Hermont, Colombes et Paris-Saint-Lazare. Éloignez-vous de cette ordure du quai, s'il vous plaît. Voilà.
Et on est avec vous, il est 8h19, on pense très très fort à notre Arnaud Demanche qui sera de retour, on l'espère, demain. Moi-même, j'avoue que j'ai quand même un gros rhume, mais ça devrait aller. Il est 8h19 et Anthony est avec nous qui voulait témoigner parce que, Anthony, vous réagissez à ces chiffres de l'immigration. À la fois, ils n'ont jamais été aussi hauts. En revanche, la question de l'immigration de travail, elle, est beaucoup plus faible. Bonjour Anthony.
Bonjour Apolline.
Anthony, vous êtes travailleur social et vous accompagnez justement des primo-arrivants. Dites-nous.
C'est ça. Oui, en fait, effectivement, moi je suis travailleur social, surtout dans l'insertion socio-professionnelle de ce public-là. Donc j'accompagne au quotidien des primo-arrivants, des réfugiés, des demandeurs d'asile de plus de 6 mois.
Ok.
Voilà. Et d'ailleurs, avant de poursuivre, une petite parenthèse. Vous m'accompagnez depuis 5 ans que je suis dans ce métier-là. Vous me permettez de faire ma veille informationnelle du matin. Vous êtes incroyable et merci, parce que du coup vous alimentez mon travail et mes discussions du midi. Donc merci Apolline, des poutous à vous, à vraiment tout le monde.
On prend franchement. Ah, merci
vraiment,
beaucoup.
Vous adore, mais...
Eh ben c'est génial. Bah écoutez Anthony, merci, ça fait toujours plaisir. Mais cela
donc,
dit justement, ce qui m'intéresse c'est aussi votre témoignage et c'est ça qui me plaît d'ailleurs, et je vais vous dire, c'est aussi pour ça que je suis particulièrement heureuse de me réveiller tôt pour être avec vous tous les matins. C'est parce qu'effectivement on informe et on a ces témoignages très divers de gens qui pensent des choses aussi très différentes, mais qui font aussi ce qu'est la France. Anthony, vous au quotidien, donc vous les accompagnez, qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous voyez?
Eh ben moi je constate qu'en fait on a une multitude de personnes qui arrivent pour différentes raisons, hein, vie privée familiale, effectivement travail temporaire, etc.
Ouais.
Qui arrivent avec différentes situations. La majorité, mais vraiment l'écrasante majorité, ne cherche qu'une chose, c'est s'insérer réellement dans la société française et travailler, parce qu'ils ont un sens de l'effort, un sens du travail. Ouais. Que des fois, il nous manque même nous, en tant que citoyens français, on perd un petit peu, ça je le vois aussi sur les accompagnements que je fais de citoyens français. Donc la plupart arrivent avec cette envie de travailler, cette envie aussi, et ce besoin, parce que, par exemple, sur des demandeurs d'asile.
Et ils se heurtent désormais parfois à... Alors, on l'a vu, hein, à la fois, c'est tout le paradoxe de ces chiffres, l'immigration, il n'y en a jamais eu autant de régularisation, mais dans le même temps, pour des raisons économique, là, pour le coup, il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a des régularisations pour des raisons familiales, par exemple, pour des raisons humanitaires, mais moins pour des raisons économiques.
Mais bien sûr, parce que par exemple, je vous donne la majorité de mes accompagnements,
ouais,
ce sont effectivement des demandeurs d'asile. D'asile, donc ça va être une situation plutôt humanitaire, guerre dans le pays, etc. Mmh. 100%, et je dis bien 100% de mes demandeurs d'asile ne cherchent qu'une chose, et ont besoin qu'une chose, travailler. Travailler pourquoi? Ouais. Parce qu'il reste de la famille au pays qui sont en danger. Travailler pourquoi? Pour rembourser la dette de migration qu'ils ont accumulée pour arriver sur ce pays. Je ne connais pas un seul de mes suivis qui ait traversé un parcours de migration aussi complexe qui leur traumatise quasiment sur des dizaines d'années.
En prenant parfois des risques vitaux. Hein. Ouais.
Sans français. Et en plus, c'est une hérésie et une hypocrisie française. Parce que on leur dit, mesdames, messieurs, vous êtes arrivés sur le territoire, vous devez être en attente de régularisation. Donc vous avez une demande en cours, que ce soit demande d'asile, titre de séjour, très bien.
Ouais.
En attendant d'avoir le papier, vous n'avez pas le droit de travailler légalement. Alors on sait bien qu'en
attendant... Sauf que pour avoir le papier, il faudra prouver que vous travaillez. Donc effectivement, il y a quand même quelque chose de très très contradictoire. Anthony, je suis très heureuse de vous avoir accueilli ce matin. Merci de votre témoignage. Justement, l'immigration, alors on en parle avec quelqu'un qui pour le coup voudrait tout mettre sur pause. C'est Éric Ciotti qui est mon invité dans un instant sur RMC et BFM TV. Mais je porterai aussi, Anthony, votre témoignage. Il est 8h22, on se retrouve donc dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Un scénario digne d'un film d'horreur à Oullins, au sud de Lyon, où une adolescente de 15 ans a été retrouvée lundi matin après avoir été séquestrée et torturée par 4 autres mineurs, 4 jeunes dont son ex-petit ami arrêté et placé en garde à vue. Ils seront déférés aujourd'hui devant le parquet des mineurs de Lyon. La députée Sandrine Josso, soulagée après la condamnation hier soir de Joël Guerriau pour soumission chimique, l'ex-sénateur écope de 4 ans de prison, dont 18 mois ferme, et annonce faire appel. La météo, toujours des vigilances orange pour les crues en Bretagne. Orange aussi pour les risques d'avalanche sur les Alpes du Sud. Le temps sera très perturbé dans l'Est, du Massif central aux frontières de l'Est, avec des fortes pluies dans l'Ouest. C'est temporairement plus calme, température entre 5 et 15 degrés cet après-midi.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Vous êtes le président du parti UDR, vous êtes député des Alpes-Maritimes, vous êtes d'ailleurs aussi candidat à la mairie de Nice. Beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord sur l'immigration, parce que les chiffres sont tombés hier. L'immigration atteint un niveau record en France, mais pas l'immigration de travail. Est-ce que vous vous désolez qu'il n'y ait pas d'immigration de travail ? Ouais. Les travailleurs, et notamment le monde de l'hôtellerie-restauration, les agriculteurs eux-mêmes, disent que c'est un vrai problème.
Ces chiffres traduisent en effet le fait que 92 ou 93% des étrangers qu'on accueille, et vous avez raison de rappeler que c'est un record absolu depuis la Seconde Guerre mondiale, 530 000, 550 000 étrangers, si on ajoute les demandeurs d'asile, les mineurs isolés et les 384 000 titres de séjour, on arrive autour de 550 000. C'est le double, je le souligne, depuis l'élection de M. Hollande. Du temps de M. Sarkozy, il y avait deux fois moins de titres. C'était déjà beaucoup, c'était déjà trop, mais on a doublé. Or, dans ces chiffres, il y a à peine 7 à 8% de gens qui viennent travailler. Donc ça veut dire, à contrario, que 92 ou 93% des étrangers qu'on accueille ne viennent pas pour travailler. Et donc, quelque part, constituent une charge pour notre pays.
Une charge, y compris ceux qui ont obtenu l'asile.
Une charge pour notre pays.
L'asile, les raisons humanitaires qui sont en hausse.
L'asile est totalement dévoyé. 155 000 demandeurs d'asile accueillis l'année dernière. Des taux d'obtention du statut de réfugié, on était il y a quelques années à 25-30%, on est passé à 50% aujourd'hui, donc il y a une plus grande générosité dans l'octroi du statut noble de réfugié, qui quelque part devient un peu galvaudé, donc l'asile est devenu la porte d'entrée légale à l'immigration illégale. Il suffit de dire à la frontière que vous êtes demandeur d'asile, même si vous venez d'un pays où il n'y a absolument pas de conflit, absolument pas de guerre, et vous obtenez ce statut de demandeur d'asile.
Obtenez, voilà, le statut de demandeur.
De demandeur. Oui, mais qui vous fait rentrer.
Vous ouvrez un dossier, en quelque
qui
sorte.
Qui vous fait rentrer dans un long parcours administratif devant l'OFPRA. Ensuite, il y a un appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Si ces deux étapes sont rejetées, le requérant peut aller devant le tribunal administratif. Après, il peut faire valoir qu'il est malade. Et au final, ceux qui arrivent restent en France. Il n'y a quasiment
vous
pas
supprimeriez
d'éloignement.
Le droit d'asile ?
Mais il faut le restreindre. Moi, je propose que l'asile soit donné à l'extérieur de notre pays. Il faut qu'on exclue les demandeurs.
C'est-à-dire qu'on le demande avant d'entrer.
Absolument, notamment dans les consulats à l'étranger. Qu'on exclue ceux qui viennent de pays sûrs et qu'on soit beaucoup plus restrictif. Regardez, l'Allemagne l'a fait, la Grande-Bretagne l'a fait.
Mais l'Allemagne avait longtemps été très ouverte. On se souvient évidemment du million de migrants accueillis par Angela Merkel.
Ce qui fut une faute historique devant l'histoire. Cette ouverture de nos frontières, c'est d'ailleurs dans ces flux que les terroristes du Bataclan sont arrivés. Donc c'est une erreur historique. C'est pas parce que l'Allemagne a fait des erreurs historiques qu'il faut les reproduire chez nous. Il y a une urgence à couper le robinet migratoire.
L'Allemagne restreint, l'Espagne à l'inverse va régulariser 500 000 travailleurs.
C'est un autre sujet. La régularisation de ceux qui sont là. J'y suis naturellement totalement opposé parce que c'est un appel d'air, mais aujourd'hui, le sujet c'est que nous, on n'a jamais laissé autant rentrer de personnes et qui ne sont là, et qui, vous avez raison de le souligner, s'il y avait une immigration de travail.
Mais ça, vous êtes...
On peut ouvrir ce débat. Moi, je ne suis pas pour l'immigration zéro. On est un pays qui peut avoir besoin de talents.
Vous n'êtes pas pour l'immigration zéro.
Qui viennent de talents. On peut avoir besoin de chercheurs, on peut avoir besoin d'ingénieurs.
Vous metteriez des quotas, c'est l'idée de Gérald Darmanin qui parle d'un moratoire, tout mettre sur pause et ensuite, éventuellement, un référendum, voire même des quotas.
Je rappellerai à M. Darmanin qu'il est au pouvoir depuis 9 ans. C'est pas l'idée de M. Darmanin. On l'a eu bien avant lui. J'ai même déposé une proposition de loi constitutionnelle à laquelle Monsieur Darmanin, Madame Borne, Monsieur Macron s'étaient opposés pour que justement dans la Constitution, il y ait la capacité pour le Parlement de choisir. Parce que si le Parlement disait chaque année, allez, on ne dépasse pas un nombre d'étrangers, y compris pour les demandeurs d'asile, il y aurait la possibilité de réguler l'immigration zéro. Naturellement, moi, je n'adhère pas à cette idée, mais il faut... parce que elle est illusoire, mais il faut, on ne peut pas rester dans ces niveaux aussi insupportables.
Je vous pose quand même la question, est-ce que finalement Gérald Darmanin, quand il dit qu'il faut tout mettre sur pause pendant 2 ou 3 ans, le temps justement de pouvoir organiser un référendum, voire la question des quotas, est-ce que vous dites à Gérald Darmanin, bah, faisons-le ensemble?
Monsieur Darmanin, il est dans la communication permanente. Quand il est au pouvoir, il ne fait pas ce qu'il dit. C'est d'ailleurs le problème de la classe politique qui nous gouverne. Ce sont des discours forts. Entendez, rappelez-vous tous les discours sur l'immigration, toutes les lois. Et pourtant, d'année en année, on franchit des records parce qu'il n'y a pas le courage nécessaire d'adopter les vraies mesures et de les faire valider. Et là, c'est la clé de tout, par un référendum, parce que les Français... Qu'est-ce qu'ils nous disent tous, y compris à gauche, qu'il y a trop d'immigration, qu'on ne peut plus l'assimiler, qu'elle met en cause notre modèle culturel aujourd'hui. Et ils veulent une restriction. Et ceux qui nous gouvernent, parce qu'aujourd'hui ils sont sous la pression du Parti Socialiste, ouvrent les vannes. Et ça, c'est totalement insupportable.
Éric Ciotti, est-ce que Donald Trump est toujours pour vous une source d'inspiration ?
Donald Trump, il a été élu par les Américains, il n'a pas été élu par les Français. Il fait globalement la politique pour laquelle il a été élu. Moi, je suis en France. Nous avons un programme pour les Français. C'est totalement différent. Il défend les intérêts de son pays avec des méthodes qui sont brutales, notamment pour les Européens. Mais ce que ça souligne dans sa brutalité, c'est la faiblesse, l'impuissance
brutalité
des Européens.
Sur la question des relations internationales, brutalité aussi sur son propre sol, avec la police aux frontières et la police d'immigration, la fameuse ICE, qui a des méthodes pour le moins brutales, jusqu'à tuer. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ?
Je vois l'émotion que ces morts ont suscité, et c'est légitime. J'aimerais qu'on se préoccupe plus des 30 000 morts en Iran. Je vois la presse parler uniquement de ces deux faits extrêmement regrettables, bien sûr, mais on parle de 30 000 morts en Iran aujourd'hui.
Mais je vois pas
aujourd'hui.
On peut parler des deux.
Vous m'interrogez sur...
Sur ce qui se passe aux États-Unis, vous me répondez Iran.
Je dis, il est légitime, le président des États-Unis a été élu pour lutter contre l'immigration, il met en place une politique de lutte contre l'immigration. Je vais pas le contester, je crois qu'il est dans le rôle que lui ont donné les Américains. Après, les méthodes, ce sont des méthodes qui lui appartiennent. Je déplore naturellement les morts. Je m'étonne du prisme médiatique qui regarde plus ces regrettables actes qui ont été commis, que je déplore et que je condamne,
mais c'est la question de,
plutôt
c'est la question
que
de l'usage
les 30
de la
000 morts en Iran aujourd'hui,
c'est la question
qui
de devrait de la
soulever
force.
Une émotion internationale. Voilà, je vous le dis.
Sur les 30 000 morts et l'émotion internationale, je suis absolument et totalement d'accord avec vous. Mais je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce que vous prendriez l'un pour justifier l'autre ? C'est-à-dire qu'au fond, la question, malgré tout, de l'usage de la force dans une démocratie, c'est une question essentielle. Est-ce qu'il pourrait y avoir, je vais vous poser la question tout simplement, Éric Ciotti, si vous étiez au pouvoir, j'imagine qu'il faudrait appliquer les décisions que vous voulez mettre en place d'expulsion, notamment des immigrés clandestins.
Bien sûr.
On est bien d'accord.
Bien.
Alors, à qui donneriez-vous mandat pour le faire appliquer? Y aurait-il une police spécifique? Et s'il arrivait, des drames comme celui-là, quelle serait votre réaction?
Mais nous avons, Madame de Malheur, nous avons des
Est-ce
lois.
Est-ce que vous diriez, c'est désolant?
Nous avons des lois en France, comme il y en a aux États-Unis. Si des actes contraires à la loi, aux lois fédérales américaines ont été commis, ils seront sanctionnés. La justice américaine est très sévère, notamment contre les policiers. Mais en France, qui va appliquer notre politique d'éloignement? La police.
Il n'y a pas eu un mot de désolation.
La police
sur ces deux personnes qui ont été tuées.
La police aux frontières.
De la part du pouvoir. De la part du gouvernement.
Vous m'interrogez sur la France. C'est la police aux frontières. On a des lois. Il faudra qu'elles soient beaucoup plus fermes. Il faudra qu'elles soient moins laxistes. Il faudra qu'il y ait des moyens matériels considérables. Vous savez, les policiers qui font les éloignements, notamment dans les avions, ont des conditions de travail épouvantable, épouvantable, parce que les étrangers qu'ils éloignent connaissent toutes les ficelles pour s'opposer aux éloignements. Ce sont les policiers, j'en discutais avec certains qui m'en parlaient récemment. Donc arrêtons sur un fait, sur des actes, sur des meurtres. Je sais pas si c'est meurtre.
Vous diriez meurtre.
Peut-être le mot doit être qualifié par la justice, mais ce qui s'est passé, je le condamne, je le déplore, mais ne mettons pas en cause, du fait de ces incidents, un système d'éloignement. Chaque pays doit avoir la capacité, et c'est ce que je souhaite pour la France, de dire qui il veut ou qui il ne veut pas sur son territoire.
Je vous pose donc la question.
En vocation à partir.
Je vous pose également la question, effectivement, de l'Iran, même si pour moi, l'un n'a rien à voir avec l'autre, mais puisque vous l'évoquez, évidemment, j'y reviens. Est-ce que ce même Donald Trump, dont, semble-t-il, vous finissez quand même par dire qu'il y a eu, vous dites même le mot meurtre, alors il vous échappe un peu, mais enfin tout de même. Est-ce que vous espérez que Donald Trump intervienne en Iran?
Oui, oui, j'espère que le peuple iranien puisse se libérer par tous les moyens. Aujourd'hui, il subit un martyr, il subit le poids d'une dictature qui depuis trop longtemps prive les Iraniens, prive ce peuple extraordinaire de liberté et s'en prend notamment aux femmes. Il faut que ce peuple se libère. Tous les moyens pour le libérer doivent être utilisés. Et s'il y a une intervention américaine, elle sera bienvenue, la bienvenue, et personnellement, je la souhaite.
Vous aimeriez que la France mette les gardiens de la Révolution, les mollahs, les responsables du régime iranien sur la liste des terroristes ?
Nous l'avons demandé à l'Assemblée nationale. Il faut le faire. Je vois le gouvernement dans une forme d'ambiguïté. Il n'a pas répondu hier à une question sur ce sujet.
Comment vous expliquez cette ambiguïté?
C'est une faute. Parce que c'est la diplomatie française, c'est la diplomatie macronienne, c'est celle du en même temps qui ménage tout le monde. Et finalement, on se discrédite partout.
Vous avez voté contre le gouvernement hier et Monsieur Le Cornu vous a reproché de jouer double jeu. C'est-à-dire d'un côté de dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais de l'autre en même temps, quand enfin on met un budget pour la France, de ne pas le voter.
D'abord, la déclaration de Monsieur Le Cornu qui répondait à une question sur un drame terrible qui a touché notre pays, qui a touché la ville
d'une
vieille dame de 90 ans, boulevard de la Madeleine à Nice. Pas simplement au-delà du viol, il y a eu une agression. Cette personne est encore hospitalisée. Je pense à elle. Monsieur Le Cornu n'a pas eu un mot de compassion. Il a fait de la politique politicienne.
J'ai écouté l'ensemble de l'intervention. Oui, il a quand même commencé.
Il a fait surtout
par parler d'elle et de sa famille.
De la politique.
Non, mais vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu un mot. C'est pas vrai.
Politicienne.
C'est factuellement faux.
Il a fait de la polémique politicienne. Moi, ce que je lui reproche, parce que qui a violé cette personne? Qui est l'auteur présumé? Et c'est là où on est au fond du sujet. Une personne sous OQTF. Une fois de plus, une fois de trop. C'est ça qui est insupportable. Et monsieur Le Cornu, il nous dit quoi? Il nous dit, il faut voter mes mesures. En gros, ça sert à quoi? Qu'il reste en place? Mais pour faire quoi? Depuis l'élection de monsieur Macron, il y a 70% d'homicides et de tentatives d'homicide. En plus, il y a 115% de violences sexuelles.
Puisque vous évoquez la question des OQTF.
55% de coups et blessures. Et il voudrait qu'on lui donne un chèque en blanc.
Éric Ciotti, vous l'avez peut-être vu,
le maire. La seule solution, c'est qu'il s'en aille. C'est qu'il démissionne.
Et c'est qu'on revote. Dans ce sens que vous votiez.
Et qu'on ait la vraie alternance dans l'alliance qu'on a voulu avec le RN et l'UDR.
Je voudrais vous poser la question de ce qui se passe à Chécy, c'est en Seine-et-Marne, un maire qui avait refusé de célébrer un mariage parce que le marié était sous OQTF. Finalement, obligé de le faire, il a remis sa démission, tout comme l'ensemble du conseil municipal, démission refusée par la préfecture. Et le maire a finalement jusqu'à jeudi pour publier les bans, sans quoi le juge de l'exécution du tribunal de Meaux a décidé qu'il serait pénalisé de 500 euros par jour si les bans ne sont pas publiés d'ici jeudi. La somme passera même à 3000 euros par jour si le mariage n'est pas célébré à la date annoncée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Payer ou marier?
Quand on entend ça, c'est une sidération qui me frappe. Je me dis, est-ce que notre France a encore un avenir? Quand on voit de telles décisions, qui sont contraires à tous les intérêts supérieurs de notre pays. Sanctionner un maire courageux, faire payer le contribuable local, alors qu'on va faciliter quelque part la violation de la loi par un étranger en situation irrégulière.
Alors je sais bien qu'il y a pas de violation parce que
oui mais on voit bien
il n'est pas prouvé qu'il s'agirait d'un mariage blanc.
Le zèle qui est fait derrière tout ça.
Le zèle de qui? De la mairie, du tribunal de l'État.
Moi je soutiens ce maire. Il est extraordinairement courageux et il faut que tout le monde le soutienne. J'ai voulu faire changer la loi. Vous rappelez, mon groupe a déposé une proposition de loi qui a été examinée, c'était en juin dernier, en juin 2025. Ce texte n'a pas été adopté du fait de la volonté de Monsieur Wauquiez, parce que ses députés n'étaient pas là. Et on a eu une obstruction toute la journée de LFI,
la gauche.
Donc il faut une loi.
Donc oui,
elle était attendue.
Je l'ai proposé.
En attendant,
c'est jeudi. Si jeudi les bans sont pas publiés, ils payent 500 euros par jour. Et si ensuite le mariage est pas célébré, ils payent 3000 euros par jour.
Il faudra que l'État, s'il est cohérent, rembourse à la mairie cette somme.
Donc tant pis, il ne marie pas, il paye, mais en espérant que l'État le cap.
Les Français sont derrière lui. On ne peut plus accepter de se laisser marcher dessus. Il faut que la France réagisse, il faut qu'elle se lève. Mais il faut qu'elle se lève avec des hommes qui la dirigent de façon courageuse et pas avec des lâches aujourd'hui qui ne prennent aucune décision pour garder leur place parce qu'ils la tiennent du Parti Socialiste et de l'extrême gauche. C'est ça la réalité.
Éric Ciotti, Michel Houellebecq a répondu en exclusivité ce matin à BFM TV, première interview depuis 3 ans à un média français. Il parle ouvertement d'un risque de guerre civile en France. Je voudrais que vous l'écoutiez.
J'envisage différentes possibilités.
Même la guerre civile dans une chanson?
Oui, dans une guerre civile, oui, c'est une possibilité aussi, oui. J'ai pas l'impression d'être le premier, quoi, à envisager éventuellement des futurs tragiques.
Il dit qu'il lui pèse d'ailleurs d'avoir parfois une parole prophétique. Qu'est-ce que vous répondez à Michel Houellebecq? Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile en France?
Michel Houellebecq, par le passé, a démontré combien il avait une capacité de visionnaire, je dirais malheureusement, de la dégradation de la situation dans notre pays. J'échange souvent avec Michel Houellebecq. C'est sans doute le plus grand intellectuel, le plus grand écrivain de ce siècle. Et il faut l'écouter, il faut l'entendre, parce qu'il connaît mieux que quiconque les ressorts de cette France profonde qui est méprisée aujourd'hui, qui est ignorée par un pouvoir qui est coupé de toutes les réalités depuis trop longtemps. Donc si, la voix si de Michel Houellebecq.
Si le RN et vous-même arriviez au pouvoir, est-ce que vous imaginez qu'il y aurait des réactions possibles en France et peut-être même que ça soit la cause d'une guerre civile?
Absolument pas. L'ordre sera rétabli lorsque nous arriverons. Parce qu'aujourd'hui, c'est le désordre. C'est le désordre dans la rue, c'est le désordre dans les comptes. On le voit. Tout s'effondre aujourd'hui. La dette, les déficits, les records d'immigration, le sujet de cette interview le démontre. Tout s'effondre. Et à un moment, ceux qui sont les responsables de cet effondrement doivent être balayés. C'est ce que veulent les Français.
Merci.
C'est pour ça qu'il faut leur redonner la parole.
Merci Éric Ciotti. Tiens, une question. Vous étiez hier soir sur CNews. Est-ce que vous iriez le matin dans l'émission de Jean-Marc Morandini?
Je n'y suis jamais allé, donc je n'irai pas non plus.
Mais dans pour la vous, terre. Ça n'a rien à voir avec sa condamnation?
Je n'irai pas. Et la condamnation renforce le fait que je n'irai pas.
Vous trouvez qu'il est normal qu'il reste à l'antenne après une condamnation pareille?
Je n'ai pas à juger dans l'organisation d'une chaîne, mais personnellement, je n'irai pas.
Et vous ne souhaitez pas qu'aucun de ceux qui travaillent avec vous y aille?
Personne n'ira.
Personne n'ira. Éric Ciotti, président du parti UDR, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Éric Ciotti, le président de l'Union des droites, était mon invité et il est resté avec nous. Rebonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Rebonjour. Et Christian Estrosi, tiens, d'ailleurs, voulez-vous dire un mot, Éric Ciotti?
Bonjour, chère Apolline de Malherbe, et bonjour à monsieur Ciotti. Bonjour aux Niçoises et aux Niçois, bien entendu. Je suis très surpris d'être invité avec monsieur Ciotti, que je n'ai pas vu depuis longtemps, puisque nous nous évitons soigneusement.
Oui.
Je dois dire que malheureusement, il a l'air d'être en pleine forme. Il n'a pas vieilli, pas un seul cheveu blanc. Oui, chez moi, derrière un compliment, la vacherie n'est jamais très loin, non, vous le remarquerez. Alors c'est vrai que nous avons eu dans le passé quelques divergences de vues, voire des désaccords profonds. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, puisque ni lui ni moi ne pouvons nous encadrer, voire même nous blairer.
Voilà.
Je pense donc qu'aujourd'hui, pour le bien des Niçoises et des Niçois, il est temps d'enterrer la vache de guerre pour passer de façon plus raisonnable à la tronçonneuse.
Ah oui, à la tronçonneuse, merci Christian Estrosi. Éric Ciotti, justement, vous êtes candidat vous-même à la mairie de Nice, vous vouliez répondre.
Écoutez, vous m'avez présenté comme président de l'UDR, comme candidat à la mairie de Nice, n'oubliez pas le cinéaste qui est en face de vous. Oui, ma spécialité, ce sont les biopics sur Christian Estrosi. Qui sont, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui sont de véritables succès sur les réseaux sociaux où je mets en valeur le bilan calamiteux à la mairie de Nice.
Ah oui.
J'ai commis quelques petits courts-métrages à succès comme Le port de la honte,
oui.
Une ville dégueulasse,
ah oui.
L'urbanisme sans permis. Voilà. Et je suis en ce moment sur deux longs-métrages en préparation. Christian Estrosi, Anatomie d'une chute. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir Christian Estrosi?
C'est pas un peu obsessionnel, ça, quand même, monsieur Ciotti.
Obsessionnel, non, non. Bon, je vous l'accorde, c'est peut-être un peu mono-sujet.
Oui.
Mais je vous rassure, je suis sur l'écriture de la suite du film d'Amélie Poulain. Ça va s'appeler Le fabuleux destin d'Éric Ciotti.
Ah, c'est beau. On va sortir un peu de Nice pour élargir. Quel est votre regard sur Donald Trump et sa politique contre l'immigration?
Alors, ça tombe bien, on parle d'immigration, parce que j'avais préparé l'interro, je vais travailler le sujet.
Ah oui, sur l'immigration, ça vous intéresse?
Je me doutais que ça allait tomber là-dessus. Écoutez, chez monsieur Trump, écoutez, d'abord, je ne suis pas américain. Hein, voilà, il y a boire et à manger, mais force est de constater que sa politique de l'immigration est un succès dont il faut s'inspirer. Et je vous le dis ici, si je suis élu à Nice, moi aussi je créerai une politique de migration qui va traquer les Mexicains à Nice.
Il y a des Mexicains à Nice?
Non, mais c'est pas grave. Écoutez, madame de Malherbe, on va pas s'arrêter à ce genre de détails. S'il n'y a pas de Mexicain à Nice pour ma politique migration, j'en ferai venir, voilà, pour montrer aux Niçois, que je peux les expulser.
Ah ben, c'est très bien, c'est efficace.
Et puis les Mexicains, voilà, ils iront chez Jean-Marc Mandier, parce que moi, je n'irai pas. Vous êtes compris, je n'irai pas chez Jean-Marc Mandier.
Ça, j'ai bien compris. Voilà. Merci, monsieur Éric Ciotti. À l'approche des élections municipales de nombreuses communes, recherchent des assesseurs bénévoles pour tenir les bureaux de vote. Patrick Balkany voulait réagir. Bonjour, Patrick.
Scandaleux, cette histoire de bénévoles. Moi, quand j'étais maire de Levallois-Perret, tous mes assesseurs étaient rémunérés. Ils disposaient d'une voiture avec chauffeur, d'un appartement de fonction et d'une mallette remplie de billets de bulletins de vote à mon nom, à déposer dans les urnes.
Oui.
C'est ça aussi la simplification administrative.
Enfin, la plupart des petites communes n'ont quand même pas les moyens de payer leurs assesseurs.
Non, mais moi non plus, j'avais pas les moyens de balayer. Je suis fauché depuis 40 ans, tout le monde le sait. Non, mais j'y suis quand même arrivé. Il suffit d'avoir un bon comptable compréhensif qui apprécie les séjours au l'inclusive dans un riad à Marrakech. Voilà. Alors, s'il y a des maires qui nous écoutent et qui ne trouvent pas d'assesseur, je peux les aider à organiser leur élection. On sait faire. Il suffit juste que le maire me dise avec combien de voix il veut être élu, un score serré à 51%, ou plutôt s'il préfère un plébiscite à 75%. Voilà.
Merci, monsieur Balkany. Après une semaine d'hésitation, Jordan Bardella a interdit aux élus RN de participer à l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews, une décision qui fait réagir Christine Kelly. Bonjour.
Bonjour. C'est Christine Kelly. Les élus RN ne peuvent plus aller chez Jean-Marc Morandini. Qu'à cela ne tienne, ils sont les bienvenus dans mon espace détente, le spa Christine Kelly. Un havre de paix, loin de la fureur du monde et des turpitudes du studio d'à côté, dans une atmosphère délicate et veloutée, vous serez interviewé avec un gommage des affaires judiciaires, extraction des points noirs de votre carrière, blanchiment de votre réputation et cirage de vos mocassins offerts. Vous pourrez bénéficier d'une de nos prestations signature, en l'occurrence le massage canadien. Une câlinothérapie, en effet, Apolline de Malherbe, tout en douceur, pratiquée par Mathieu Boccoté.
Ah oui.
Mon équipe vous accueille du lundi au jeudi, de 19h à 20h. Gratuit sur présentation de votre carte de membre du RN, du Pins Jordan 2027, ou bien sûr d'un poster d'Éric Ciotti.
Oui.
J'y étais hier soir. J'ai pas eu tout ça.
Vous avez pas eu les massages. Le massage canadien.
Il faut réclamer.
Il faut que j'y retourne.
Il va y retourner. Merci Christine Kelly. Nous sommes maintenant avec Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, bonjour. Votre épouse Carla Bruni est soupçonnée d'avoir utilisé un téléphone secret pour une opération visant à vous innocenter dans un dossier, le dossier des financements libyens.
Quelle indignité, Madame Pujadas.
Oui, Madame Pujadas.
Carla n'a jamais eu de téléphone secret. Qui vous a dit ça? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que Carla, elle n'avait pas de téléphone secret. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que son téléphone secret, en plus, c'était pas le sien, c'était celui de Sylvie Bismuth. Voilà. Donc, et puis, il n'y a pas de secret. Carla, je sais ce que je la connais. C'est simplement qu'au téléphone, vous savez comment elle est comme dans la vraie vie. Elle murmure. Elle parle doucement. Elle parle tellement doucement qu'on peut avoir l'impression qu'elle a quelque chose à cacher, alors que pas du tout.
Au-delà de ça, vous avez quand même engagé une procédure pour ne plus porter votre bracelet électronique.
Mais même Pujadas. Le bracelet électronique, je supporte très bien. Si j'en veux plus, c'est pas pour moi, c'est pour la France.
Ah oui.
Parce que, est-ce que vous croyez, quand on, franchement, avec la dette qu'on a, est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est utile de dépenser des milliers d'euros pour poursuivre mes déplacements, alors que pour savoir où je suis, ben les juges, il suffit simplement qu'ils dépensent quelques euros pour acheter Gala, Voici ou Paris Match.
Voilà.
C'est tellement simple.
C'est pour faire des économies à la France. Merci beaucoup, Nicolas Sarkozy. Merci Nicolas Canteloup, face à Canteloup. Merci aussi à Éric Ciotti d'être resté avec nous, face à Canteloup, demain 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Et dans un instant, c'est les GG, Alain.
Oui, les grandes gueules de 9h à midi. Est-ce que, avec les chiffres de l'immigration, la France est devenue une opération porte ouverte? On regardera aussi les chiffres économiques. Les Français moins riches que la moyenne des Européens pour la troisième année consécutive. On est même rattrapé par les Polonais aujourd'hui. 32-16 pour agir avec les grandes gueules.